Vous écoutez Radio Courtoisie, les 18h.
Francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 mars de 18 à 21h, en différé jeudi 27, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85. Par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Nous allons traiter ce soir plusieurs sujets. Nous allons les traiter dans le respect de la dignité de la personne humaine et d'une façon qui ne sera pas susceptible de constituer une des infractions prévues aux articles 24, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Pouvez-vous marrer quand on dit liberté de la presse? C'est autorisé. Voilà. C'est pas absolument interdit, mais on va essayer quand même. Donc, je me marre. Nous allons parler donc, devinez de quoi? Devinez un peu de quoi nous allons parler. Nous allons parler de...
Du printemps.
Non, on répond pas le moindre effort. Je pourrais aussi bien siffler dans un violon, voire faire d'autres choses qui sont plus spectaculaires, mais moins mondaines. Tout le monde s'en fout, ça fait rien. Donc on va parler de l'Irak, mais pas tout de suite. On en parlera tout à l'heure avec un spécialiste qui m'a fait la grâce de se déranger. Nous recevrons également, alors vous allez voir, on va aller de surprise en surprise ce soir, c'est vraiment un festival d'inattendus. Hein? Le père Argoas.
Ouais,
le docteur Dor.
Oui.
Le journaliste Goffman.
Oh.
Le marquis Dolmetta.
Ouais.
Voilà, c'est tout?
Oui.
Non, mais en plus, il y aura donc le spécialiste, parce que quand on aura fini avec toutes ces... Il y aura Cécilia aussi.
Ah.
Cécilia qui viendra parler de fleurs. C'est le moment où j'avais de parler de fleurs. Hein, parce que, avec les autres, je ne sais pas si on va pouvoir parler de fleurs longtemps. Il n'y en aura plus de fleurs quand ils auront fini de bombarder le désert. Ces bêtes sauvages. Enfin, bref. Donc commençons, mon cher Patrick Goffman, nous allons commencer, suivant la tradition, par un écran publicitaire.
Bonsoir Serge de Becquetch, bonsoir aux innombrables auditeurs de Radio Courtoisie dans le monde entier et au-delà, sans autre précision. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas le libre journal devant moi pour le feuilleter et pour en
vous l'avez vendu pour boire.
Détailler exactement pour boire et pour manger. C'est-à-dire que j'ai commis la Félix Culpa de me rendre à la réunion au colloque sur anniversaire des événements d'Algérie en 1962 sur un bateau mouche au pont de l'Alma.
Il y avait du monde.
Il y avait énormément de monde. J'avais mal compris, comme ça m'arrive parfois, et donc je suis arrivé avec quelques minutes de retard.
Vous avez
déjà
rattrapé à la nage, là.
150, pratiquement. Il y avait 150 personnes qui étaient déjà installées, qui menaçaient de faire chavirer l'embarcation. Et j'ai fait la connaissance d'une dame Ferrandi, qui m'a chargé de vous faire ses amitiés et de vous exprimer sa gratitude, parce que d'après elle, c'est vous qui aviez rempli ce bateau-mouche pour une bonne part. Ensuite, de quoi elle m'a autorisé à passer dans les travées, non pas avec une corbeille, mais avec une liasse de Libre Journal numéro 289. J'ai inauguré un nouveau slogan à cette occasion, le Libre Journal très beau, très cher. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, mais j'en ai été complètement dépouillé, si bien que je n'en ai pas pour feuilleter le sommaire. Et c'est grand dommage. Puisque nous n'avons absolument aucun scoop, aucune exclusivité cette décade, et nous devons tenir la distance avec les rubriques habituelles, celle du commandant Bunel. Alors, je vais me contenter.
Il n'y a aucun scoop, aucune exclusivité, hein, quand même, franchement. Ah. Il y a un formidable papier de Brignot, ce qui c'est pas un scoop d'ailleurs, c'est pas une exclusivité, c'est une exclusivité.
Mais j'avais peur d'empiéter sur le sujet de l'Irak. Alors je vais simplement me livrer à la réflexion suivante avant de conclure l'écran publicitaire en donnant, prenez vite un papier et un crayon, en donnant les références du Libre Journal. J'entends, faute de trouver un scoop dans le Libre Journal, j'écoute la radio et je crois que c'est sur RTL que j'entends un de ces innombrables spécialistes là, qui nous honorent de leur science à nouveau, bon avec 10 ans de plus pour la plupart, depuis que la guerre a commencé, nous annoncer avec des trémolos que le torchon brûle entre les États-Unis et l'Arabie saoudite et que c'est très grave et que ça va avoir des conséquences. Et puis, ça me dit quelque chose et il me revient que le commandant Bunel non seulement a annoncé cet événement il y a 3 mois dans le Libre Journal, mais qu'il nous a expliqué en long, en large et en travers pour quelles raisons tout à fait pertinente, la rupture allait intervenir entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Et j'en conclus que je ne suis pas seulement ce margoulin qui arpente un bateau-mouche en criant « Le Libre Journal, très beau, très cher », mais que je promeux un produit qui a un intérêt réel pour ses lecteurs. C'est-à-dire que nos nombreux milliers d'abonnés savent depuis 3 mois non seulement que l'Arabie saoudite et les États-Unis vont rompre, mais pour quelles raisons, pour quelques multiples raisons et quelles conséquences ça va avoir. Alors vraiment, je suis absolument obligé une fois de plus de dire, si vous avez Internet, consultez un spécimen gratuit sur le site libre-journal.fr.fm. Si vous vous méfiez encore, envoyez un carnet de timbre pour avoir un spécimen papier. Et si vous avez enfin compris, envoyez 110 euros à SDB, 4 places France List, 75 010, Paris.
Il est très bien ce garçon. Hein, c'est carré. C'est... Qui n'est pas abonné autour de cette table?
Ah,
non, il n'est pas abonné, cher Guest, puisqu'il est collaborateur. Père Argouache, il le reçoit gracieusement, comme tous les curés qui en font la demande. Enfin, vraiment, vous savez.
On a même eu droit à des pages couleurs pour le commandant Guillaume.
Ouais, et ils sont plus riches que nous. Ils sont plus riches que nous, les curés, vous le savez.
C'est ce qu'il faut.
Ah là là. Oui, vous auriez mieux fait de faire la quête, finalement, Patrick. Oui, Patrick, j'y viens dans sur le bateau. Ça rapporte plus. Demandez, Père Argouache. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure. Docteur Dor.
Mais oui.
Vous êtes abonné, vous.
Ah, naturellement.
Et depuis longtemps.
Oh, ma femme y tient beaucoup.
Donc c'est bien la preuve que je n'invite pas les gens pour qu'ils s'abonnent. Ils sont déjà abonnés.
Depuis longtemps. C'est ma femme qui fait la lecture, elle me fait ça très bien. Puis il faut que tu écoutes le... Alors c'est elle qui me prend part.
Est-ce qu'elle nous écoute, là?
Ah, non, elle écoute difficilement, je veux dire.
Ah bon?
Et oui, là, mais c'est pas de sa faute, c'est plutôt de la mienne, parce qu'on n'a pas tout à fait les appareils. Mais il faut...
Vous avez encore un poste à galène. Mais le docteur pas... d'heure, c'est une bicyclette et un poste à galène, l'équipement. Oui, dans quoi il fait la révolution partout. Oui, enfin, vous êtes allé chatouiller les.
Alors, les frangins. Mais oui. Alors, nous étions donc au Grand Orient. On était combien à 120, 140 mètres. C'était donc le samedi 28 février. Et je m'attendais à ce qu'on soit nombreux, mais là, on a vraiment été. Nous étions, je crois, 250, enfin au moins ça. Et donc, pas mal de jeunesse. C'était très encourageant.
C'était la presse. Une loge juste.
Et il y avait présent qui était là. Ça, présent est toujours fidèle. Mais la presse ne vient pas. Et alors, j'imagine qu'elle ne tient pas tellement à venir, au fond.
Vous m'étonnez.
Et voilà. Et alors, au fond, c'est comme si on n'avait pas d'existence. Pourtant, on était nombreux. Et puis, la rue Lafayette, mon Dieu, il y a beaucoup de voitures, en sens unique. Il y a deux autobus qui marchent en sens contraire, deux lignes d'autobus. Donc, il y a beaucoup de passages. On nous voit. Mais malgré ça, enfin bon, je pense qu'un jour la presse est invitée et qu'elle viendra réellement, parce que nous avons des choses intéressantes à dire. En tout cas, on a fait un communiqué qui va apparaître demain, et je veux dire que ce communiqué est assez dur. Enfin, assez vrai, parce que la vérité, mon Dieu, elle est ce qu'elle est. Mais nous disons bien que les francs-maçons ont orchestré ce le plus grand massacre qu'ait jamais connu l'humanité. Je crois que là, j'invente rien.
Heureusement que j'ai dit au début de l'émission qu'il ne fallait pas qu'ils disent du mal des francs-maçons, parce qu'autrement... Oui.
Et je dirais, il n'est pas difficile de le montrer, parce que, vraiment. Et enfin, nous avons pris une méthode un peu différente. C'est vrai que nous allons encore, bien sûr, devant les centres d'avortement. Mais là, à Paris, donc, nous avons été donc longtemps devant les centres d'avortement, au fond, au pied de la croix. Mais maintenant, je dirais, c'est un peu spécial. Peut-être vous allez sourire un peu, mais c'est quand même vrai. Nous sommes au Sanhédrin. C'est-à-dire que c'est là que les décisions sont prises. Les décisions de crucifixion, de tout ce qu'on veut, d'exécution sont prises dans ces loges. Parce que c'est quand même incroyable, alors qu'ils n'ont pas de mandat, que depuis 250 ans, ils parasitent la vie politique, ils pèsent, je dirais, ils écrasent, ils détruisent, ils corrompent tout ce qu'on veut. Et ils sont toujours d'ailleurs dans l'obscurité, des loges, tout se trame dans l'ombre. Et finalement, ceci pour l'horreur, c'est-à-dire que Dieu n'est plus aimé, Dieu est sorti des institutions, sorti des consciences, n'est-ce pas? Le vrai n'existe pas, simplement les opinions, c'est la tolérance, ce n'est pas l'amour, bien entendu. Enfin, et alors je suis en train de lire les constitutions d'Anderson, je vous assure, c'est très
incroyable. Tu as aimé lire les contes d'Anderson?
C'est presque pareil. Enfin, non, c'est pas. Non, mais c'est très clair. Alors je suis. Alors, la surprise. Incroyable. Je me dis, je vais chercher Anderson dans le dictionnaire, dans le bouillet, dans le petit bouillet que j'ai, qui est, je crois, 1884. Anderson, on parle d'Anderson, celui qui a, je ne sais pas si vous connaissez cet Anderson-là, qui avait mis sur le pouvoir Gustav Vasa, donc un Suédois, à l'époque de la Réforme. Bon, et il y a cet Anderson-là. Mais l'Anderson dont je parle, le James Anderson, qui était pasteur, car il faut dire que là, c'est très curieux à dire, mais je suis désolé auprès des protestants, mais ils le savent certainement, que la franc-maçonnerie est née sous l'aile du protestantisme. C'est-à-dire que les corporations du Moyen-Âge croyaient à Dieu, à l'Église et au saint, les protestants sont arrivés donc en 1517, c'est assez curieux, le protestantisme c'est 1717, donc en 1517, les protestants ont évacué Dieu, ils ont évacué l'Église et les saints. Alors arrive par derrière les Lumières, donc 200 ans plus tard, à ce moment-là, c'est pas Dieu lui-même qui saute, mais presque c'est le déisme, c'est-à-dire qu'il y a une horloge, un horloger, mais le Christ, rien. Et alors c'est ça le plus curieux, le plus intéressant, c'est que pratiquement, ce qui unit les loges, mais je dirais de façon peut-être encore plus grave que le secret, plus importante que la gnose, c'est le refus de croire à la divinité du Christ. Ils croient à la rigueur à l'horloger.
Vous parlez du Grand Orient, là.
De toutes les loges.
Non.
Ah, je vais plus vous dire. Ah, si, c'est le déisme. Ah non, ils croient en Dieu. Je suis persuadé que Bush croit en Dieu, tout ça.
Non, mais je crois que vous devriez approfondir votre connaissance de la question, docteur.
Je crois que, hélas, je...
Il y a notamment... à la Grande Loge de France, à la Grande Loge nationale française, il y a des ateliers dans lesquels vous ne pouvez pas entrer si vous n'êtes pas catholique.
Oui, mais ça, oui, mais je n'y crois pas.
Non, mais il faut le dire.
Joseph de Maistre était un grand catholique, mais il était illuminé. Alors, c'était quand même incroyable. Moi, je dis que Joseph de Maistre, ne tournait pas très rond. Enfin, je pense. Car comment peut-on, il avait des choses remarquables sur la Révolution.
Un jour, on va vous amener un franc-maçon, vous allez avoir un débat avec lui, ça, on va rigoler, là, non?
Franchement, ou alors on ne peut pas être l'un et l'autre. C'est le refus de la divinité.
Non, ça c'est clair, on ne peut pas être quatre.
Ce sont les fils de la veuve, ce ne sont pas les fils d'Abraham.
Il faut quand même être précis pour les auditeurs, il faut rendre cet hommage à la vérité au moins factuel.
Ah, toujours, autant qu'on
c'est
peut.
C'est que, évidemment. Aussi bien au Grand Orient, il y a un acharnement marqué contre l'Église catholique et un acharnement militant, aussi bien dans d'autres obédiences, notamment la Grande Loge Nationale Française, dans certains ateliers de la Grande Loge Nationale Française, pas dans tous, il y a des gens qui prétendent qu'ils sont vigoureusement catholiques.
Oui, mais alors là, je dirais, de même qu'il y avait des catholiques et des communistes.
Je pourrais vous donner des noms qui me surprendraient. Il y en a un qu'on peut citer parce qu'il est défuncté depuis fort longtemps. C'était le grand maître de la Grande Loge de France, qui était maître Richard Dupuis, qui était catholique de tradition, qui était un homme de droite, qui était un très grand bonhomme et qui était grand maître de la Grande Loge de France.
Donc, pour vous aider un peu le docteur, le professeur Lozac-Meur, je crois, qui est à Rennes, dit quand même que dans toutes les loges, le grand architecte est quand même le prince de ce monde, le prince des ténèbres. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il démontre. Mais est-ce que son livre est...
Pas la Grande Loge de France, rue Christine de Pisan, les travaux s'ouvrent par la lecture précise de l'Évangile, et il n'est pas question du grand architecte de l'univers, il est question de Dieu.
Bon, mais les moi, je crois qu'on a tout à fait avantage. On a tout à fait avantage. Si on veut avoir travail efficace de vérité.
Et
surtout le marquage du rôle de la franc-maçonnerie dans la vie politique et la vie sociale française d'aujourd'hui, à bien discriminer entre les francs-maçons qui sont ceux qui sont réellement alors des ennemis
jurés,
de la foi et du monde catholicisme et de la tradition catholique, et même pas seulement de la tradition, mais aussi bien de la tradition conciliaire. Et ceux qui sont simplement des gens qui appartiennent à des clubs un peu fermés. Bon.
Oui, mais Monsieur Bekesh, la maçonnerie a toujours été condamnée par l'Église. On ne peut pas être l'un et l'autre. Alors, certains prennent la liberté de le faire, c'est leur liberté, mais c'est leur erreur.
Mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. Mais c'est pas, si vous voulez, ces gens peuvent être abusés par eux-mêmes ou par l'impression qu'il y a une possibilité de double appartenance.
Voilà.
J'en connais certains très très bien. Qui ont commis cette erreur, qui en sont revenus, qui savent donc par expérience que les gens qu'ils ont connus dans les ateliers étaient de très braves gens qui n'étaient pas du tout acharnés à la destruction de l'Église ou à la négation de la divinité du Christ. Tout simplement, ils pensaient que c'était autre chose. Voilà.
De toute façon, il n'est pas question de juger les personnes, ça jamais, même pas les plus acharnés contre Dieu, n'est-ce pas? Nous ne jugeons personne, bien entendu. Nous jugeons la franc-maçonnerie sur pièce.
C'est quand même formidable parce que une fois de plus, M. de Bekesh nous bassine avec la franc-maçonnerie. C'est pas moi qui vous bassine, c'est le docteur qui en parle.
Et oui,
moi, je réponds, c'est tout.
C'est vrai que, de mon côté, je l'ai bassiné aussi avec l'avortement, mais c'est tellement grave. Ils sont au pouvoir. Je crois qu'il y a 30 personnes qui dirigent le monde. J'ai entendu ça l'autre jour dans une conférence très intéressante par un monsieur Jacob Leff, qui disait qu'il y a 30 personnes, il pouvait citer les noms, qui dirigent le monde. Puis à côté de ça, il y a 3800 personnes, alors peut-être moins importantes, mais je crois que tout ça se traîne plus ou moins
Je ne sais plus quel journal a dit récemment que sur les 25 ministres actuels, il y en a 21 qui sont francs-maçons.
Ah, 5, c'est sûr. Je ne sais pas. Non. Écoutez, il y a une chose. J'ai lu le livre de M. Caillé, qui est remarquable. Il a quitté le Grand Orient alors qu'il était au 18e degré. Et pour monter au 18e degré, il disait qu'il avait été initié un jeudi saint. C'est quand même curieux. Un jeudi saint, ils ont rompu le pain, ils ont bu le vin. Pourquoi un jeudi saint? Pourquoi chercher? Alors, en plus que c'est variable, ce sont les fêtes variables, pas qu'est variable. Donc, il y a là vraiment une, je dirais, on suppose vraiment d'où vient tout ça. C'est pas difficile à imaginer, hélas. Enfin, voilà.
Votre combat essentiel, c'est que ça reste quand même la vie.
Ben, je dirais le plus grand forfait de la maçonnerie, c'est justement de tuer les plus petits qui n'y sont pour rien, les malheureux. Et puis d'autres choses aussi. Mais ça, c'est le pire, parce qu'on ne peut pas. Une mère, j'ai souvent dit ça, une mère, si elle tue son voisin, c'est moins grave que si elle tue son plus petit. Pourquoi? Parce que c'est la seule protection qu'elle ait, c'est elle, c'est sa mère. Et la voisine, moi, c'est grave. Je ne dis pas que c'est bien que tu aies la voisine, bien sûr que non. C'est horrible. Mais tuer son enfant, c'est encore plus horrible. Et alors, on la pousse à faire ça, on la rembourse, on lui dit, mais comment, qu'est-ce que ça veut dire, on est trop nombreux, enfin, c'est très dangereux de garder un enfant, on lui dira mille choses, n'est-ce pas? Tout ça au nom de la liberté. C'est une liberté sans vérité. Et parfois même au nom de l'égalité. Enfin, évidemment, par derrière, on abolira la peine de mort, bien entendu. Ce qui n'a évidemment ni queue ni tête, n'est-ce pas? Comment se fait-il que la peine de mort soit abolie, je dirais, sauf pour les plus petits? Enfin, vraiment, personne n'y comprend rien. Il faut être franc-maçon pour le comprendre, c'est-à-dire tête en bas. Je pense. Je pense que la franc-maçonnerie, c'est pas seulement un vice de l'intelligence, c'est d'abord un refus de la grâce. J'en suis convaincu. C'est un refus de la grâce et un vice de l'intelligence, c'est-à-dire une schizophrénie. C'est-à-dire que pour eux, les faits n'existent pas, il n'y a pas de révélation d'en haut, ou pas beaucoup, et les faits n'existent pas, ou tout au moins, comment dire, on ne voit les faits qu'à travers soi-même. Donc, l'interprétation qu'on en a. Donc, il n'y a pas véritablement de faits, il y a simplement l'idée qu'on en a. Voilà. Donc, le vrai n'existe pas, seule l'opinion. Enfin, je dirais, une civilisation ne peut pas être bâtie sur le doute, et puis sur l'horreur. Enfin, il conjugue le décalogue à l'envers. Je dirais, si c'est pas satanique, alors là, je lâche le mot, alors là, les poules ont des dents. Voilà. Alors, j'invite. Ceci étant dit, c'est quand même difficile, peut-être dangereux de le dire. Je sais que quand on en parle aux gens, les gens ont un petit sursaut, parfois un sourire, en disant, tiens, ils s'intéressent à ça. Mais, et puis, je dois le dire aussi, je le dis pour les francs-maçons, il y a aussi du mépris dans ce que... C'est-à-dire, c'est trop facile pour eux. Ils ont tous les pouvoirs, ils font ce qu'ils veulent, tout leur est permis, n'est-ce pas? Ce qu'ils décident en loge est aussitôt traduit à la chambre. Je dirais, ils n'ont pas de soucis. Mais ils devraient quand même penser que Dieu existe et que Satan n'est pas le plus fort. Ça, ils devraient penser à ça. Ils devraient aussi penser à leur âme. Et ça, nous prions beaucoup pour ça. Nous ne condamnons personne. Je connais, j'ai vu des hommes faits qui sont sortis du Grand Orient. Et enfin, là-dessus, je pourrais... Ils se sont convertis. Et il n'y a pas de meilleur converti que ces gens-là. Donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu pour les francs-maçons. Tout est perdu pour la franc-maçonnerie. Rien n'est perdu pour les francs-maçons. On peut le dire comme ça. Alors, tout le monde est invité, bien entendu. Et vous verrez que c'est quand même très intéressant. Il y a beaucoup de police, même de la police dans les magasins.
Vous allez recommencer.
On recommence. Mais je dirais, je vais tout vous dire, au moins cette fois.
Il est incroyable.
Non, non, c'est Dieu, c'est Jéricho. C'est-à-dire, vous me direz, mais monsieur, eux croient beaucoup au symbole.
On peut dire une chose, c'est que si vous réussissez le même coup que les trompettes de Jéricho, on vous en remerciera, parce que rue Cadet, d'avoir construit cette espèce d'immondice qui s'appelle le Grand Orient de France, c'est vraiment un exploit. Alors là, si la vilainie s'affichait, c'est une réussite totale. On ne peut pas faire plus vilain.
C'est un exploit comparable, parce que vous avez vu que l'opéra de Bastille et d'autres monuments tombent sur la tête des passants sans qu'on joue de la trompette, ni compris en public.
Si, on joue de la trompette à l'intérieur.
Quand même. Ah, tout s'explique.
Alors donc, voilà, tout le monde est convié, petits et grands. Il y avait même des enfants très petits qui étaient là, hein. Des enfants de 2 ans qui étaient là. Ils ne risquent rien, il y a beaucoup de police. Je crois que la police est très vigilante.
C'est 3 ans en plus.
On vous empêche d'entrer dans la rue Cadet, si je comprends bien. On vous oblige à rester rue Lafayette.
Voilà, mais c'est pas plus mal, nous sommes rue Lafayette, et après tout, bon, la place est petite, on déborde la place.
Une manifestation anti-maçonnique rue Lafayette, je trouve ça assez gonflé.
Oui, c'est assez gonflé, mais c'est pas seulement à cause du Grand Orient. Il faut pas oublier qu'il y a 2 écoles de la Torah rue Cadet, qui a le siège de pas mal d'associations israélites où il y a des enfants. Donc elle est très souvent bloquée pour éviter les manifestations. Et à un moment, il y avait même le siège de la CFDT.
Vous voyez pas qu'ils se convertissent et qu'ils viennent catholiques à force de vous voir prier.
Mais c'est tout ce que nous espérons.
Bah oui,
il n'y a que Dieu qui convertit, bien entendu. Mais c'est tout ce que nous souhaitons. Et je leur promets le bonheur éternel. C'est pas moi qui le donnerai, évidemment. Mais, enfin, je peux les aider un petit peu, enfin, en tout cas, par nos prières. Alors, voilà, ils sont donc tout le monde invités, même les francs-maçons, mais surtout eux, peut-être. Il y en a un qui sera là, un repenti qui sera là. Il me l'a dit. C'est le vendredi, dans 48 heures, c'est pas vieux. Nous serons à ce moment-là à rue Cadet, 48 heures, à 19 heures. Le début de la manifestation, c'est à 19 heures. Ça terminera, je pense, vers 21 heures, un petit peu plus peut-être, 21h10. Et voilà, nous allons prier, nous récitons le rosaire.
Rue Cadet, Lafayette, devant la rue Cadet, toujours.
Et nous serons, alors c'est ça, nous serons autour du métro, rue Lafayette, au métro Cadet, tout simplement. Il y a une petite plage, je ne sais pas si vous voyez, qui n'est pas très grande.
Oui, triangulaire.
Voilà. 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 Alors, je dirais...
Non, mais c'est vrai, en plus.
Pardon.
Elle est triangulaire.
Ah, elle est triangulaire. Oui. Elle est triangulaire, c'est vrai, mon Dieu.
Ils sont partout, je veux dire.
Comment dire? Mais ils sont partout.
Vendredi.
Ils sont sur les billets de banque. Ils sont, enfin, sur le dollar, tout ça. Paraît-il, depuis Roosevelt, en 1933.
Enfin, bon. Alors, j'aime bien les dollars quand même. Si vous voulez pas avoir de photos de francs-maçons sur vos dollars, vous me les envoyez. Moi, je les accepte.
Je peux dire un mot de Lafayette et des francs-maçons, mais j'ai jamais prêté attention à cette secte qui me paraît absurde. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui magouillent entre eux pour se refiler des postes ou des avantages, donc ils m'intéressent pas beaucoup. Jusqu'au jour, il y a une dizaine d'années, où j'ai visité la cathédrale nationale de Washington. Alors, ce qu'elle avait de cathédrale, c'est qu'on avait mis 80 ans à la construire. Et ce qu'elle avait de nationale, c'est qu'elle était ouverte à tous les cultes, aux innombrables cultes américains. Et ce qui m'a quand même étonné, malgré mon ignorance dans ce domaine, c'est de voir que à l'intérieur, elle était couverte de symboles maçonniques. Et alors, dans ma candeur, j'ai trouvé que c'était quand même un peu étrange de voir une cathédrale chrétienne qui était constellée de symboles maçonniques entre la statue de Lafayette, celle de Washington et, je dois dire, du drapeau français sur un mémorial de la guerre de 14.
Lafayette appartenait à la loge des Trois Sœurs, comme Marat d'ailleurs. Voltaire aussi a été initié à la
9 jours avant sa mort.
Alors, j'ai 9 sœurs, qu'est-ce que je raconte ?
Ça lui a pas facilité le passage, si je crois bien.
On peut pas dire qu'il était maçon.
Alors, les auditeurs disent, pourquoi parlez-vous de la franc-maçonnerie puisque ce sont nos ennemis ? Alors, si on parle que de nos amis, on va vraiment faire des émissions très courtes. Hein. Et il y a quelqu'un quand même qui me donne une clé, et je le dis parce que c'est joli comme tout. Vous avez tort, cher Serge, ils sont tous adorateurs du singe de Dieu, qui se fait appeler le Dieu bon, pour les repérer, guetter les chemises blanches, les cravates bleues et rouges parfois. Donc, gare aux chemises blanches. Il n'y a que le père Argouche qui était parmi ici. Mon cher Patrick, vous avez mis une chemise blanche. Pour... Sur la colonne de Juillet, il y a un ange, c'est Lucifer tout simplement érigé. Alors là, sous le roi Louis-Philippe. Oui, ça a été dit souvent, ça, que c'était Lucifer. Il paraît que George Bush croit que la France est un pays peuplé de... Ah, je ne sais pas si je peux lire ça. J'ai peur que ce ne soit pas conforme. Au truc machin de dignité humaine et toutes ces sortes de choses. Donc je suis désolé, cher auditeur, je vais faire l'impasse sur votre message, enfin sur ce passage. Non, il paraît que George Bush croit que la France est un pays peuplé de... Alors là, blablabla. Ne craignez-vous pas que la France figure parmi les pays de l'axe du mal avec les conséquences qu'on peut imaginer? Mais c'est bien sûr, c'est pour ça que je suis contre les bombardements, qui sont contraires à la dignité de la personne humaine et susceptibles de constituer une infraction prévue aux articles 24, 32, 33 de la loi du 29 juillet et tout ça.
Pour continuer avec M. Bush, d'accord avec le docteur Dor, M. Bush, qui est contre l'avortement, tue des innocents. Quelle hypocrisie! Il faudrait un jour parler...
Vous avez dit ça, docteur ? Vous avez attaqué le président Bush, en plus ?
Non, j'ai pas parlé de Bush.
Hein. Attention, Sanders va venir, il va s'occuper de vous.
Hein. Il faudrait un jour parler des origines occultes de la libéralisation de l'avortement. Pour moi, c'est un meurtre rituel.
C'est pas occulte, ça a été la libéralisation, elle a été décidée. Après, une question à l'étude des loges, qui a été posée en 72-73, alors que monsieur le docteur Pierre Simon était grand maître de la Grande Loge de France.
C'est
là
que... Oui, mais crime rituel, je crois que l'auditeur a tout à fait raison.
Oui, d'accord, mais enfin, il faut dire clairement les choses. Ça a été la question à l'étude des loges en 72, je ne me souviens plus, posée par le docteur Pierre Simon, qui ensuite a transmis le résultat des cogitations maçonniques des questions à l'étude des loges à Mme Simone Weil, qui en a fait le sujet de sa dissertation, qui a conduit à l'exécution de 250 000 bébés par an. On le sait, tout ça. La responsabilité de la Grande Loge de France, elle est, et du Grand Orient aussi, d'ailleurs, c'est clair dans cette histoire, il n'y a pas de discussion.
Le docteur Simon était par ailleurs le gynécologue de Mme Pompidou. C'était pas Aaron Taziev, contrairement à ce qu'on pouvait penser.
Savez-vous, docteur Dor,
bon, vous la posez, votre question.
Que de nombreux vaccins sont fabriqués sur des cellules de fœtus humains.
Oui, ça a été dit.
Oui, ça a été dit.
Que pensez-vous, par ailleurs, des embrassades de l'évêque d'Evry et de l'imam? Alors, docteur, que pensez-vous?
Je trouve que nos évêques, hélas, il y a tellement à dire sur les évêques.
Regardez, ici, c'est moi qui dis du mal des évêques. C'est pas chacun son boulot.
Chacun son boulot, voilà. Donc, vous dites
du mal des francs-macs, moi je dis du mal des évêques.
Et alors, une question un peu à côté. J'ai lu dans le dernier journal de la France courtoise que VGE avait reconnu récemment que la plus grosse erreur de son septennat concernait les lois du regroupement familial. Est-il possible de retrouver la source de cette erreur?
Ah oui, c'est certainement. Oui, ça, c'est
vous le demande directement. non, ou vous n'avez pas là.
Oui, enfin non, je n'ai pas ça en tête.
Il faut qu'ils écrivent.
Mais non,
au Libre Journal de la France Courtoise.
L'erreur, c'est le septennat.
Mais moi, je suis parce que le plus grave qu'il a fait, c'est de mettre en branle la machine qui a tué les petits.
Bien sûr.
Donc le regroupement familial, d'accord, c'est grave.
Mais dans quelques années, on s'apercevra que c'est une calamité totale. D'abord, ça fait 200 ans qu'on vit sous des calamités. Alors je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait aussi vite. Il nous faut un roi, c'est tout. Merci docteur.
Donc
vendredi, bah, évidemment, c'est le seul. Rendez-vous vendredi à la place
19h, métro Cadet.
Sous les auspices du général Lafayette.
Voilà. Mon Dieu, ce franc-maçon, enfin, bon.
Tenue blanche ouverte.
et cravate rouge de rigueur, bien entendu.
Bon, merci.
Mon père, vous êtes. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit. Vous aimez les francs-maçons que quand ils vous envoient du fric.
Moi, je sais qu'ils sont attachés à la perte de Rieumont.
Alors en plus,
des témoignages, donc je ne peux pas les aimer.
Oui, mais franchement, Rieumont, c'est quand même la citadelle du scoutisme qui a été créée par M. Baden-Powell, dont je me suis laissé dire que de ce côté-là, il n'était pas blanc-bleu, ni rouge non plus.
En tout cas, on n'a pas dit dans quelle loge il appartenait, même s'il avait des contacts avec les francs-maçons. Il n'y a aucun écrit qui certifie qu'il était franc-maçon. Il n'y a aucun document
comme
qui a été amené.
Il était anglais, de toute façon, mais
bien sûr.
Assez de défauts par ailleurs,
on sait qu'il en connaissait énormément. Bon. Mais ça ne met pas de suspicion sur le scoutisme.
Bon. Alors,
du tout, puisqu'il a été labellisé par le Père Sevin.
Voilà, j'allais vous dire, le Père Sevin l'a surabondamment inondé d'eau lustrale et il est nickel. Le scoutisme n'a plus possibilité d'en dire du mal d'une façon intelligente. Alors, cela étant, vous avez en ce moment deux activités qui sont des activités de constructeur, mais de constructeur...
Bâtisseur.
Vous êtes bâtisseur, vous êtes le pharaon, finalement, de la tradition scout.
Oui, mais avec des petits moyens. Quelquefois, je reçois des lettres disant, mais vous allez vous disperser, vous faites un tas de choses, vous allez devenir riche, et après, vous allez perdre l'esprit de Rieumont.
Vous allez passer vos soirées dans les boîtes de nuit à dilapider l'argent.
Non, c'est vrai.
Vous faites le videur, déjà, je crois.
Ah oui, oui. Moi, quand je suis attaqué la nuit sur mon territoire, et effectivement, j'ai comme des ailes, et effectivement, il faut garder notre territoire. C'est comme une petite principauté, si vous voulez.
Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Alors, où en est-on du côté donc, de la principauté de Rieumont, la Sainte-Croix? Vous devriez d'ailleurs faire des titres de noblesse. Ça fait longtemps que je vous dis ça.
Oui, ça marche bien, ça.
Hein, mais oui, vous feriez un ordre de la Sainte-Croix, duc de la Sainte-Croix, marquis
de
la Sainte-Croix.
Oui, mais on a l'ensemble d'un tas de francs-maçons qui voudraient avoir les manteaux blancs, etc.
Exactement, donc... comme ça, ils ne vous en mettront plus après.
Dès qu'on fait quelque chose qui est très chevaleresque, ça intéresse tellement de monde, et puis ça ne correspond pas toujours à ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Les gens sont intéressés par l'extérieur, malheureusement. Oui, écoutez, Rieumont va très bien. Vous savez qu'on a eu un certain nombre de menaces.
Oui,
parce qu'on a fait, un petit chalet en bois, et puis ce petit chalet en bois a servi de prétexte pour faire des menaces terribles contre le village, alors qu'il existe plein de petits chalets. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur cette radio. Je ne parle pas à toutes les radios, vous savez, mais c'est ma préférée.
Vous devriez essayer Radio Libertaire.
Donc on a eu un document extraordinaire de l'ennemi qui prouve que dans différents compartiments on a préparé un complot. C'est un complot contre le village de Rieumont, hein, parce qu'on a fait ce petit chalet. Bon, un hélicoptère au mois d'août et s'est posé pratiquement sur le monastère pour filmer ou photographier ce petit chalet, alors qu'il y a des petits chalets partout dans les jardins des mineurs. Et puis
il fallait tirer un coup de fusil dessus.
Et
c'est
puis notre...
une plaisanterie, je le signale. Ce que je dis, évidemment, ne rentre pas dans le cadre de dignité, de machin truc, article 22, tout ça. Mais c'est pour rire que je dis ça. C'est par allusion à l'Irakien qui, avec une pétoire antédiluvienne, a descendu.
Mais j'étais pas là. Si j'avais été là, tenez-vous bien, Serge, ça serait pas passé comme ça.
Ouais.
Mais je n'étais pas là. Nous étions tous en camp ou en retraite de communauté. Donc, pour faire court, parce que c'est rocambolesque, et ce serait une illustration de la démocratie totalitaire, un chapitre que je voudrais faire dans le livre que je n'écrirai jamais, mais que vous m'avez fait acheter le livre de Don Camillo, Le Petit Monde de Don Camillo pour faire ce livre, mais j'ai vraiment du mal à l'écrire. Il faudrait que quelqu'un l'écrive à ma place.
Oui, c'est scientifique.
Regarde, je ne nomme personne.
Scientifique. Qu'a demandé à Goffman.
Voilà la circulaire que j'ai entre les mains à la suite, le type chalet, bois et pierre, dalles et toiture, cheminée d'environ 25 mètres carrés, 6 rue Thiers, Salier 20, Pas-de-Calais, secteur fiscal de Lens, construit sans permis sur 20 mois. Vérification des factures des matériaux. Vérification des constructions et de quel type. Vérification de la construction par des enfants sous contrainte. Permis déposé pour la construction d'un lieu de culte de type église. C'est un franc-maçon qui a écrit ça, docteur. De type église dite catholique. Bon, il est antérieur à la date des travaux illégaux.
Écoutez, excusez-moi une seconde. C'est fabuleux le langage de ces mecs. Construction d'un lieu de culte de type église dite catholique. Vous savez, c'était tellement plus simple de reconstruction d'une chapelle. Non, non.
Alors, il est antérieur à la date des travaux illégaux, nommé ci-dessus et constaté sur le terrain par nos inspecteurs. Donc, ils ont marché sur la dalle de béton de notre chalet. Alors, préconisation, c'est que le début, Serge, c'est une page et demie sur 25. Hein. Préconisation, démolition des bâtiments construits contre le code de l'urbanisme et en opposition au PLU et SCT, annulation du permis de construire, il s'agit de l'église, et démolition des travaux de l'église, déjà effectués, cela pour une période de 10 années civiles. Vous imaginez la vengeance. Amende de type soit, je ne sais pas le dire en euros, 381 152,54 euros. Ça correspond exactement à la somme que j'ai gagnée contre le préfet d'Arras dans l'histoire des indemnités de licenciement après un procès de 16 ans. Le bon Dieu, miraculeusement, nous a fait gagner. Et donc, ils veulent récupérer l'argent que le ministère de l'Intérieur nous a donné. Exactement la somme. Information de monsieur le procureur de la République auprès du TGI. C'est pas le TGV, c'est le tribunal de grande instance de Béthune pour la protection des mineurs. Alors, ça c'est pour les campagnes de presse. Information aux associations dites de défense de l'environnement. On sait que ce sont les écologistes qui sont, comme on le sait...
Dites de défense, il aime bien le mot dites.
Qui sont
eux-mêmes ne sont pas dupes.
Et qui veulent...
dire, c'est le bourreau de Béthune.
Ah, oui, information des associations dites de défense de l'environnement pour la violation du code... de plantation, ça s'agit des arbres évidemment, alors qu'on replante trois arbres pour trois. Saisir monsieur le contrôleur du Trésor qui veillera à l'application des contrôles fiscaux et à l'association dite particulièrement Sainte-Croix de Riomont et toutes ses associations satellites. On dirait un truc de guerre, si vous voulez.
Oui, c'est ça, mais
c'est comme un communiqué de guerre.
Il faut préciser ce que c'est quand même. C'est une note intérieure qui a été établie par un service de persécution des Français, comme il y en a des dizaines ou des centaines.
Oui.
Et il y a une taupe à l'intérieur qui vous a refilé le truc. Voilà ce qu'ils sont en train de
conclure. C'est pas une taupe, c'est un ange qui est venu. Une taupe angélique.
Ah voilà.
Parce que évidemment, nous ne mettrions pas en danger quelqu'un qui aurait pu nous donner ça. Il courait trop de danger. C'est donc le bon Dieu, tout simplement, qui nous a envoyé une lettre de Paris. Vous savez.
C'est bien.
Il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'ailleurs.
Si vous avez l'adresse, vous me la donnerez parce que j'ai besoin de lui en ce moment.
Vous ne pouvez pas dire quelle est la source, précise.
Je ne peux pas dire quelle est la source.
Non, mais je veux dire pas l'origine, votre informateur, mais le document, la source du document. Quel est le service qui vous persécute?
C'est le service fiscaux, parce que le cadastre dépend directement des services fiscaux.
Est-ce que vous savez, monsieur l'abbé, que pendant que vous parlez, au château des Ventes, dans l'Eure, on injecte plusieurs centaines de millions d'euros pour héberger 8 délinquants de banlieue, si vous voyez ce que je veux dire, et leur faire connaître la vie de château avec des salles de bain en marbre et 4 domestiques chacun pendant que vous secouez votre sébile à tous les micros. Absolument. Et que les services fiscaux vous persécutent.
Absolument.
À propos du château des Vents, là, il faut quand même que je présente des excuses, mais raplapla, alors, des excuses prosternées. Au responsable d'une école privée qui s'appelle les Quatre Vents et qui est en Normandie aussi, parce que la dernière fois que j'ai parlé de ça, j'ai dit l'école des Quatre Vents au lieu de dire le château des Vents, ce qui fait que le directeur de cette école, qui est un truc formidable, il faut aller le voir, c'est vraiment extraordinaire, monsieur de Maisonneuve. Oui. Vous connaissez la maison?
Ah oui, j'y suis allé.
C'est magnifique, c'est incroyable.
J'ai même célébré la messe, puisque l'hôtel qui est là-bas, je l'ai récupéré dans une congrégation religieuse.
Qui m'a dit que vous
dans une sorte de grenier.
Et donc les parents, ou enfin des amis de monsieur de Maisonneuve lui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez été attaqué sur Radio Corsair.
Serge, vous êtes comme les Américains qui flinguent leurs propres hélicoptères et leurs propres chars d'assaut. Tiramis, ça s'appelle.
Pour que ça soit bien clair,
c'est pas être patriote, hein.
Je me répands en excuse, je demande pardon à M. de Maisonneuve et aux gens qui sont avec lui.
Frappez-vous la coulpe.
Je me bats la coulpe.
Pas sur moi.
Ça, bon, et c'est tout simplement une erreur un lapsus calamiteux, même, on peut dire. Et donc, ça n'a évidemment rien à voir. Là, il s'agit d'une maison qui est à, les quatre vents, c'est enfin les quatre vents, c'est à quel endroit?
Assez,
voilà. Je ne trouve plus le nom du village. Tu as deux heures de Paris.
Évêché.
Un endroit prodigieux, magnifique.
Voilà,
c'est quelque chose, oui. Très très beau. Et donc ça n'a absolument rien à voir avec le château des vents ou dans le, qui est en train de se transformer pour faire de l'accueil de délinquants multirécidivistes.
Une école de grande espérance pour la jeunesse de France.
Voilà.
Et peut-être que le père Awarch pourrait s'en tirer en disant que le petit chalet qu'il a construit, c'est une mosquée ou un temple, ou un temple maçonnique, et tout rentrera dans l'ordre.
Pour le permis de construire de l'église, effectivement, mosquée. Avec, d'abord salle polyvalente ou mosquée.
Lieu de culte dit.
Oui, et alors sans doute qu'on aurait pu avoir peut-être tout de suite le cœur de l'église, parce qu'on a le permis pour le... pour la, je sais pas comment dire, la nef, mais pas pour les transepts et le chœur. Mais ça viendra peut-être.
Ou le temple maçonnique, et puis voilà.
Voilà, une salle polyvalente d'activité.
Mais vous savez, c'est
pour le Masdu, mouvement d'animation.
On parle des mosquées, vous savez, je suis allé plusieurs fois dans des cités du côté de Wagny, etc., que les gens ne vont plus à l'église parce que ils sont attaqués par des musulmans ou des pauvres gosses qui sont là à coups de pierre. Et il y a plusieurs églises où les prêtres ne vont plus parce que ces églises sont en insécurité.
Wagny, vilain, il vous prendra.
Vous savez, mon père, dans le 18e arrondissement, il y a une église dont je n'irai pas le nom, mais elle porte le nom d'un endroit où s'est retiré Napoléon après Waterloo, le nom de l'île, mais je ne dirai pas le nom de l'église. Et il y avait des dépendances. Les archevêchés viennent de les faire aménager et c'est prêté à une association musulmane.
Ben comme ça, il risque rien. Non, c'est très. Moi, je suis tout à fait. Je trouve ça très très bien. Il faut travailler dans le sens d'une plus grande entente, d'un plus large œcuménisme.
Œcuménisme.
Oui, c'était un de mes camarades dont je ne citerai pas le nom qui avait affiché comme ça dans son bureau une étoile de David avec à l'intérieur une croix gammée et la légende c'était pour un plus large œcuménisme. C'était très mal. Je désapprouvais absolument. D'ailleurs, je trouvais ça scandaleux. Mais comme il était israélite, ça passait assez.
Ça gazait pour lui.
Voilà.
Serge, pour terminer.
Oui, alors, je vous rends la parole.
La dernière phrase. Application de la loi sur la violation du code fiscal et du code de l'urbanisme pour le, etc. Alors, il y a la référence, il y a la cotation, il y a l'annexe, il y a tous les numéros de ce document et l'objet, construction sans permis. Autrement dit, un tout petit chalet en bois et il y a le déchaînement terrible de nos
300 000 euros d'amende.
Attendez, je vais vous dire 381 152,54, Serge, euros. Tout ça, ça a été calculé. Alors, c'est pour vous dire que, bon, je ne vous dis pas ce que j'ai fait. Toujours est-il que depuis un moment, on a absolument rien, il n'y a pas de problème. On nous laisse tranquille. Voilà.
Mais finalement, le chalet, il a disparu.
Ça, je ne sais pas.
Vous ne savez pas, vous en occupez
pas. C'est un peu comme la maison de la Sainte Vierge. Il y a un ange qui l'a pris, et puis des anges, et puis il est parti sans doute en Bretagne, parce que je vais parler du village breton.
Oui.
Voilà, le scoutisme n'a plus de statut, tout le monde le sait. Marie-Georges Buffet, quelques jours avant de partir, a supprimé le statut du scoutisme. Nous, on l'avait dit plusieurs années avant, on nous traitait de fous. Les grosses associations scouts, scouts d'Europe, scouts unitaires, des grosses associations... Penser qu'on était vraiment l'extrême de l'extrême, Riomont, puisque on a même osé défendre l'abbé Cottard. On a toujours dit que Perros-Guirec était une machine à casser le scoutisme de tradition, on l'a dit dès le début. Et puis maintenant, eh bien, on en revient, par la force des choses, à nos conclusions. En fait, Riomont a été mauvais prophète pour toute cette histoire. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bien sûr, il y a des grandes discussions actuellement au Parlement. Il y a un groupe de députés qui discutent du scoutisme à la jeunesse et sport, enfin anciennement jeunesse et sport puisque c'est rattaché maintenant à l'éducation nationale, eh bien il s'agit des mêmes fonctionnaires et c'est très très compliqué pour les camps d'été. On ne sait pas du tout ce qui va se passer pour les camps d'été. Or, je ne sais pas si j'étais un bon stratège, mais il y a 2-3 ans j'ai dit il faut qu'on puisse faire du scoutisme en France. Il va devenir presque clandestin, et donc on a voulu acheter le Gerveur, le Christ, je rajoute le Christ, le Gerveur, le grand village du Christ, et la première campagne, ça a été sauver le Gerveur. Grâce à Radio Courtoisie et à la lettre aux amis, on a acheté ce village breton ruiné, à l'image de la France. Deuxième campagne, c'était sauver la première maison. La première maison est sauvée, il y a un gardien qui est formidable, qui est paysagiste, qui travaille, qui garde le village.
Oh là, un type qui travaille.
Qui travaille. On a trouvé un travail du côté de Lorient. C'est un jeune garçon sensationnel.
Ah, et puis ouais, il est de Lorient, alors ça va. Il est à Lorient.
Et puis alors on va pas retomber dans des discussions, hein. Alors alors on a sauvé la maison et puis surtout on a sécurisé le village. On a fait une clôture pour que nos camps, vous savez qu'il y aura 500 scouts de Riomont dans ce village l'été prochain, et donc on l'a mis en sécurité, le village. La troisième campagne, Serge, je la lance maintenant grâce à vous. Vous avez dit tout à l'heure, oui, de toute façon, il va encore demander de l'argent.
Je vais finir comme ça, de toute façon. Alors, mais, vous savez, je m'y fais à force.
Mais on est en période de guerre, Serge.
Mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein.
Mais ce sont des bombes médiatiques, c'est des bombes journalistiques. Je suis pas contre tous les journalistes, évidemment. Il y a des journalistes qui sont excellents.
J'en connais pas personnellement, moi je suis pas journaliste.
Et qui brûle de poser une question générale.
Ah bon.
Est-ce qu'on peut, avant que vous concluiez sur le crise, vous reposer une question générale? Je me suis fait incendier hier par une abonnée du Libre Journal parce qu'on a eu le malheur à la une du numéro 288 de mettre une jolie illustration de scoutisme en mentionnant la persécution générale contre l'ensemble du mouvement scout, et la légende du dessin c'était le scoutisme n'existe qu'en plein air. Et donc on en parle pendant qu'on fabriquait ça, qu'on discutait de l'illustration qu'on allait mettre à la une, et Serge me raconte que vous, scout extrémiste, vous deviez, excusez, je cite ces termes un peu, il est parfois un peu grossier,
non,
Serge,
absolument pas,
que vous deviez traîner après vous des chiottes à roulettes et des cuisines roulantes, ce qui doit quand même pas être très commode pour escalader même les contreforts du Mont Blanc, et que sinon vous seriez immédiatement interdit. Alors là, quand on entend ça, je voulais vous demander de confirmer ces propos.
Absolument.
Serge, parce que c'est quand même incroyable.
Non,
veut dire la mort du scoutisme.
Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Riomont n'était pas reconnu. Et nous, on s'est fait reconnaître par le scoutisme officiel juste avant la dissolution. Parce que nous, on est arrivés les derniers. Autrement dit, ça servait à rien de se faire reconnaître puisqu'il n'y a plus de statut actuellement. Mais avant, on avait le statut centre de vacances, colonie de vacances. Donc, tous mes gars, ils ont des PAFD, ils sont directeurs de colonie de vacances. Je vais avoir 5 diplômés. Et puis, tous, ils ont des BAFA. Or, la logistique, il fallait qu'elle soit là.
Il faut dire BAFD, BAFA, c'est brevet.
L'aptitude aux fonctions de directeur. Or, quand ils ont voulu supprimer le scoutisme, ils ont vu que Riomont n'était pas reconnu non plus. Bon, donc on nous appliquait la législation des camps vacances. Cela veut dire des toilettes, cela veut dire des douches, cela veut dire une cuisine avec un cuisinier qui a le CAP, ça veut dire toute la logistique. Effectivement, quand ils sont arrivés, les inspecteurs, ils nous ont dit, écoutez, vous avez eu 3 jours pour vous mettre dans les normes. Alors, heureusement, Riomont, c'est sensationnel, j'ai des frères sensationnels, ils sont remontés au village, ils sont arrivés avec plusieurs camions, avec tout le matériel, avec 1 kilomètre de tuyaux, on a monté les douches, on a monté les toilettes, et alors on avait un matériel sensationnel que j'ai acheté, et qui venait de Sarajevo, qui était des toilettes de Sarajevo, que j'ai eu grâce à la protection civile, que j'ai acheté à Paris à une vente aux enchères.
Les domaines.
Et c'est comme ça que Riomont, quand les inspecteurs sont revenus, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et ils se demandaient comment on avait fait. C'était une sorte de miracle.
Ils pas
de ce coup,
miracle.
Parce que les douches, les pauvres gosses, ils les prenaient à 400 mètres. Ah non, les douches devaient être à l'endroit, au camp, etc. Tout était comme ça. Et malgré tout ça, bien sûr, c'était très 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 chaud. Et pour pouvoir rester, j'ai fait venir 2 caméramans qui ont filmé les inspecteurs. Et là, j'ai raconté cette histoire.
Faut pas dire des caméramans, faut dire
des caméramans.
Des cadreurs.
Des cadreurs.
Parce qu'on a un obsédé qui.
Alors, ce sont des cadreurs.
On va recevoir le message de l'obsédé qui va nous dire.
Mais
pas d'anglo-ricain.
Ils ont tellement peur, eux aussi, des médias.
Tout ce qu'on peut raconter, ils s'en foutent. La seule chose, c'est quand vous dites.
Mais il a raison quand même, parce que c'est pas même pas de l'anglais, c'est du franglais. C'est un mot qui n'existe pas en anglais.
En tout cas, on nous a pas, parce que à ce moment-là, c'était tellement chaud, je pensais qu'on nous aurait envoyé les gardes mobiles, comme ils ont fait à la CRC, hein, et ils ont envoyé des quarts de gardes mobiles sur les camps. Et je me disais, ça va arriver. Alors les garçons avaient pour but de faire un grand jeu en forêt. Un grand jeu en forêt. C'était à ce point-là, puisque j'ai eu une lettre de menace du sous-préfet. parce que j'avais osé mettre en cause l'intégrité d'un fonctionnaire de la République. Bon, je lui ai pas répondu que j'avais fait condamner un préfet de la République il y a peu de temps parce que je l'aurais excité.
Oui, histoire d'arranger les bidons.
Mais vous vous rendez compte des menaces? Mais alors nous, on est là, bien sûr, il faut tendre la joue droite, il faut embrasser, etc. Mais nous, on défend des enfants, on défend une éducation, hein, on défend un certain nombre de choses. On a retrouvé dernièrement les consignes qui étaient données par la jeunesse et les sports. Je ne trouve plus ma feuille, mais peu importe. Mais c'était terrible. C'était marqué « Pensez le risque sectaire ».« Pensez le risque sectaire ». Bon, je n'ai pas le papier, je l'ai perdu, peu importe. Mais c'était terrible parce qu'en fond, les inspecteurs de la jeunesse et sport, avec ce papier, étaient vraiment transformés en commissaires politiques.
Mais dans le prochain numéro du Libre Journal, je vais publier un témoignage sur une affaire comme ça. C'est des gens qui ont voulu... enseigner leurs enfants à domicile parce qu'ils en ont ras-le-bol de voir que on en voit en sixième il y a 35% des enfants qui ne savent pas lire quand même. Ça devient grave. Donc ces gens-là, elle était professeure d'université, elle a dit, la maman était prof d'université et elle a dit je vais assurer l'instruction de mes 5 enfants, etc. Donc conformément à la loi, on lui a envoyé des inspecteurs pour vérifier le bon niveau de son enseignement. Les inspecteurs ont constaté que le niveau était impeccable. Ils ont fait un rapport où deux fois ils soulignent que l'enseignement est conforme et parfaitement impeccable. Et puis après ils ont dit aux gosses, mais parce que les parents s'étaient absentés, on veut voir la maison. On leur a fait visiter la maison. Ils ont regardé la décoration, ils ont regardé la bibliothèque, ils ont vu les livres. Alors ils ont vu qu'il n'y avait pas de télévision, qu'il y avait des livres sacrés, des livres religieux, qu'il y avait des crucifix dans les chambres. Et ils ont fait un rapport en disant que c'était une éducation de caractère sectaire, qu'on avait donné à ces enfants une éducation religieuse trop marquée, un cadre contraignant, etc. La justice s'est emparée de l'affaire. On a dit à cette femme, vous allez remettre vos enfants à des experts pendant 3 jours, et à l'issue de ces 3 jours, on verra si on peut vous les rendre ou si on les met dans une institution. À ce moment-là, il se trouve que la mère était canadienne. Elle a dit, mais enfin, vous êtes complètement dingue. Moi, au Canada, on ne fait pas des choses comme ça. Le type qui a dit, mais si vous êtes canadienne, vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ses bagages, elle a pris ses enfants et son mari sous son bras, ils ont foutu le camp au Canada en 3 jours. Et ils ont envoyé une lettre à un notaire du coin en disant « Vous vendez la baraque et tout, la France c'est terminé, on n'y met plus les pieds. » Et puis il y a une association qui s'est emparée de l'affaire et qui a décidé de poursuivre. Ils ont donc attaqué le ministère de l'Éducation nationale, enfin ça n'a aucun sens des propos comme ça. Là-dessus, la justice a dit « Non, il n'y a pas lieu parce que premièrement, étant donné que les parents sont partis avec leurs enfants, les menaces qui étaient prononcées contre eux n'ont pas été suivies des faits, donc elles sont constituent pas un délit. Et deuxièmement, étant donné que les parents disent ça et les enfants disent ça, mais que les inspecteurs disent que c'est pas vrai, c'est parole contre parole. Donc on clôt le dossier, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir.
Mais voilà. La pression.
Ça c'est en France en 2003, c'est pas en Union soviétique en 1949.
Vous savez, c'est la persécution, parce que, voilà, moi j'ai écrit au ministre de la Justice et aussi au procureur général de la Cour d'appel de Paris. Je le dis simplement le début de ma lettre. Monsieur le procureur général, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'indiquer si des poursuites ont été envisagées et entamées à l'encontre de monsieur François Bayrou, qui devant la France entière a giflé un garçon vraisemblablement d'origine maghrébine, celui-ci ayant, selon ce qui a été rapporté, tenté de voler ce politicien. Je vous serai en effet très reconnaissant de bien vouloir me faire connaître la position du parquet telle qu'elle a été adoptée à Paris, puisqu'en effet, il semble que ces faits représentent pour la justice d'aujourd'hui une préoccupation essentielle, si j'en juge par les démarches particulièrement soutenues qui sont manifestées à mon encontre actuellement en tant que congrégation religieuse qui a en charge des enfants, et à la suite de démarches de l'un de ceux-ci qui seraient consécutives à une gifle qu'il aurait reçue par l'un de mes éducateurs. Outre le fait que je dois bien sûr vous rassurer, puisqu'aucun de nos enfants n'a jamais été maltraité, je souhaiterais savoir si le sort qui est réservé à nos congrégations est identique à celui qui est réservé aux politiciens. Bien sûr, ça l'a fait 2 mois et demi, Serge, qu'on a envoyé cette lettre, bien sûr, avec accusé de réception. Bon, bien sûr, il n'y a pas de réponse. Mais nous oppose des actes de l'autre côté, dans l'autre camp contre nous, nous aussi pour l'histoire. On pose aussi un certain nombre d'actes. On est le petit poussé de la tradition. On est le petit village d'Astérix. On n'a pas grand moyen, mais on a la foi et le scout est fier de sa foi et lui soumet toute sa vie.
J'aime
et puis
bien quand il prend sa petite voix comme
j'espère,
ça. J'espère. Il parle quand même d'Astérix.
Non, mais j'espère que ceux qui m'écoutent. Maintenant, c'est le, donc je vais conclure, Serge, parce que il y avait un temps qui était quand même un peu court. Non, je peux
non,
encore
non,
parler.
Il faut conclure. Non, il faut conclure parce d'accord. que notre invité va s'en aller.
La troisième campagne, c'est pour sauver le manoir du village breton, parce qu'il n'y a plus que 4 murs. Beaucoup de bienfaiteurs savent que ce petit manoir a été incendié par des jeunes un 14 juillet, il y a environ 4-5 ans. Donc il y avait un message aussi qui était donné par l'ennemi pour l'incendie de ce manoir. Et le but, eh bien, le challenge, c'est de remonter...
Bingo.
Ring.
Bingo.
C'était de remonter ce manoir. Alors les dons, c'est bien sûr scout et guide de Riomont. Ceux qui veulent... Ben, il faut sauver tout le village. Et il faut sauver aussi ce terrain qui va nous servir de camp-école et de centre agréé reconnu. Si Dieu veut un jour, eh bien, il faut sauver ce village, il faut sauver ce manoir. Donc, ben, les dons sont à faire à Scout et Guide de Riomont, village d'enfants de Riomont, R-I-A-U-M-O-N-T, boîte postale 28, 62-801, Liévin, L-I-E-V-I-N, CEDEX.
On recommence, on le redit une fois, allez hop, on s'en va.
Village d'enfants de Riomont, boîte postale 28, 62-801 Liévin CEDEX, et puis on a notre site, paraît-il, qui est un site
super,
modèle.
Vraiment, il est super.
Riomont.com, voilà. Je crois.
Ah, il est très très beau. Très
Serge, lui. Merci.
Merci, mon
c'était un plaisir.
Deux tout petits messages. Oui. Personnellement, je n'ai jamais été scout, mais deux de mes trois fils l'ont été, et nous n'avons eu qu'à nous en louer. Le scoutisme, c'est magnifique.
Bien sûr.
Et ensuite, bravo au père Argouache pour son courage, il m'en donne aussi.
Voilà, merci beaucoup.
C'est
merci
le scoutisme
beaucoup.
Qui m'a donné un fils qui tient debout. L'autre, il tient debout sans scoutisme.
En tout cas, l'expression le scoutisme en plein air est bonne parce que le scoutisme dans les camps de concentration, oui, mais le plus tard possible. Le scoutisme dans les caves, oui, mais le plus tard possible. Vive le scoutisme en plein air et vive la liberté qu'on a encore de crier notre foi.
Merci, mon père. On écoute un petit bout de musique qui nous est offert par Franck. Merci, Franck. Jean-Claude Chevrier, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie d'être venu parce que je vous ai téléphoné à l'improviste et vous avez eu la gentillesse de vous libérer. Alors, vous êtes musicologue, c'est pas la raison pour laquelle je vous ai invité. Je vous ai invité surtout parce que vous avez une connaissance personnelle approfondie de l'Irak et de toute cette région, puisque votre activité de musicologue porte essentiellement sur les musiques de l'Orient. Et notamment les musiques anciennes de l'Orient, ce qui vous a amené à voyager très longuement pendant plus de 40 ans.
Voilà. J'ai commencé en culotte courte. Voilà. La haute Mésopotamie, je l'ai connue en culotte courte.
Alors, on nous raconte beaucoup de choses sur ce qui se passe là-bas, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous fassiez un portrait du pays comme vous le connaissez. C'est-à-dire, toutes les informations sur la guerre, tout ça, c'est une chose, mais on ne sait, par exemple, pas du tout dans quel décor ça se passe. Est-ce que c'est un décor qui ressemble à la mer de sable, comme on a l'air de nous le dire, ou est-ce que c'est un décor de pays où coule le lait et le miel, comme c'était la définition de la Terre promise, la Mésopotamie étant le lieu où était le paradis, donc ça doit être encore mieux que la Terre promise. Alors, quel est le décor? Comment sont les gens? Qu'est-ce que c'est que l'Irak, au fond?
Alors, je vais d'abord vous répondre en vous égarant, je suis là pour ça. C'est que l'Irak, c'est comme la Yougoslavie, c'est même beaucoup plus varié, ou comme l'Australie. Quand vous êtes à Al-Kosh, bourg chaldéen, juste à l'actuelle frontière avec la zone kurde, vous êtes dans des montagnes.
C'est-à-dire au nord, là?
Oui, au grand nord de l'actuel Irak. Mmh. En fait, l'Irak allait plus loin. Mais vous savez, tout ça sont des combines entre grandes puissances, puisque la frontière turco-syrienne date de 1923, le traité de Lausanne, avec 5 ans pour l'appliquer, et la frontière nord de l'Irak jusqu'à la monstrueuse guerre du Golfe datait de 1928. Et c'était les frontières perméables jusqu'en 1940. La guerre de 39-45, comme les Turcs avaient réussi à se faire donner Antioche en promettant qu'ils seraient du côté des alliés pour la guerre, bien entendu, ils ne sont pas entrés en guerre aux côtés des alliés, ils ont gardé Antioche et ils ont passé leur temps à conspirer pour et avec les Allemands. Mais cela étant, bon, les Turcs sont ce qu'ils sont, de toute façon, ils sont toujours polis. C'est leur seule qualité, mais ils en ont d'autres aussi.
C'est vrai que je suis obligé de vous rappeler à l'exigence qui consiste à respecter la dignité de la personne humaine et de ne pas dire des choses qui sont susceptibles de constituer les infractions prévues aux articles 24,
alors je vais 23, le dire en turc.
32, 33 de la loi, du, etc.
Bon,
donc, pas le droit de dire du mal des Turcs. Vous pouvez dire du mal des catholiques et des Français.
Alors oui, autant. Oui. Mais là, rassurez-vous, mes enfants le savent.
Mais
pour dire du mal des catholiques, du jour où. Jour et nuit. Alors, reparlons de l'Irak. Vous me posez une question à laquelle je vais demander un certain temps pour répondre, mais vous allez m'interrompre parce qu'aujourd'hui, vous avez tous l'air très dissipés. Et comme moi, je suis professeur d'université, attention, ceux qui m'interrompent, j'aime leurs questions si elles me montrent que je n'ai pas assez bien expliqué. Mais si ce sont des questions d'enfants dissipés, je leur demande d'aller se promener.
Pourquoi?
Bon, pourquoi? C'est comme ça, parce que c'est la dignité de l'enseignement supérieur. Non, mais l'enseignement supérieur, les étudiants sont motivés. Alors moi, j'ai un séminaire d'analyse de musique traditionnelle sur des étudiants en doctorat. Donc, en général, quand il m'interrompt, c'est pour une question intelligente.
Alors, on va essayer d'être aussi intelligent que...
Alors, pour vous faire patienter dans votre côté dissipé, je vais faire tourner une carte. C'est la mienne, c'est-à-dire c'est celle que j'ai faite. C'est la carte des endroits où je me promène tout en faisant des études, puisque si j'ai 45 ans de haute Mésopotamie, j'ai 40 ans d'études supérieures, parce que j'ai attendu d'avoir des pantalons longs pour entrer en médecine. C'est pourquoi je réponds à votre urgence aussi. Alors, je fais tourner la carte et j'y tiens beaucoup parce que beaucoup de clowns, pardon de cette expression péjorative, arrivent en disant « je suis spécialiste des chrétiens d'Irak ». Ce n'est pas possible. On ne peut être spécialiste que des chrétiens dans la mesure où ils forment un groupe cohérent, c'est-à-dire on peut être spécialiste des monophysites, des ex-monophysites syriaques, catholiques, orthodoxes, on peut être spécialiste des diphysites assyro, ancien calendrier, nouveau calendrier chaldéen rattaché à Rome, mais comme ces gens-là ont été divisés par les frontières établies entre 1923 et 1930, et encore plus après 1991, il ne faut pas dire que je suis spécialiste des chrétiens d'Irak, sinon ça veut dire qu'on est un journaliste futile, pardon pour les journalistes. Ça n'existe pas, le chrétien d'Irak. Ce sont les chrétiens de rite araméophone et de rite oriental qui se trouvent sur le territoire irakien.
Dramatique interruption, monsieur le professeur. Oui, vous n'avez pas répondu à la question d'origine qui, moi, me passionne. L'Irak, c'est un désert de sable ou une terre où coule le lait et le miel?
Alors, c'est tout à la fois. Je vous ai répondu, c'est comme la Yougoslavie ou l'Australie. Quand vous êtes au nord, c'est montagneux. Parce que c'est la continuation du sud-est de la Turquie. Tout ça sont les frontières politiques. Vous pouvez discuter, est-ce la Turquie, n'est-ce pas la Turquie? On va dire la continuation du sud-est de l'Asie mineure. Les fleuves qui passent très encaissés au sud-est de la Turquie débouchent sur l'Irak. On est donc dans un paysage qui n'est pas tout à fait le paysage suisse. Il y a quand même des conifères, il y a des vallées très encaissées, il y a des torrents. Ça, c'est le nord. C'est ce que les barbares, qui ne connaissent pas l'histoire, au lieu de l'appeler ça la Syrie et l'apostrophe, appellent le Kurdistan. Mais il faut savoir que les tribus kurdes n'ont envahi l'actuel sud-est de l'Asie mineure qu'entre le XIIIe et un peu après le XIIIe siècle. Le sud-est de l'Asie mineure n'était pas kurde jusqu'au XIIIe siècle. C'est la tribu Hakkari qui chassait d'Irak s'y est installée. Alors je continue la réponse. Après, vous avez d'ailleurs un phénomène intéressant, c'est quand vous êtes dans les montagnes, vous avez deux peuples rivaux. Les montagnards, ce sont les Kurdes et les Assyriens. Les Assyriens sont les descendants de Nestorius, et là, comme il faut que je peux faire de l'anticatholicisme, ça fait partie du concile d'abord d'Éphèse qui a renvoyé l'édit physite, et le pauvre Nestorius a dit « Jésus est mort 36 heures, on ne peut pas être mère d'un dieu qui meurt pendant 36 heures ». Elle n'est donc que mère du Christ. Alors à l'époque, vous savez, c'était parlementaire le christianisme, et je reproche au christianisme d'avoir été parlementaire. Et là, j'ai le droit de dire du mal du christianisme, je ne risque absolument rien. Absolument. Au contraire, ils vont dire, il est à Radio Courtoisie et ils cassent leur christianisme. Mais revenons à nos moutons. Les montagnes sont partagées entre les Kurdes et les Assyriens depuis, et surtout depuis que les Kurdes sont devenus musulmans au 7e siècle, c'est beaucoup plus grave. Car ça fait en même temps, puisque nous sommes en guerre de religion actuellement, les protestants contre les autres, les guerres de religion, c'est toujours interminable. Ça dure au moins autant que durent les religions. Donc nord de l'Irak, très montagneux, nord-est de l'Irak, confins de l'Iran. Alors là, c'est un territoire autochtone kurde, c'est-à-dire la région nord-est de l'Irak, frontalière de l'Iran du nord, ou du moins du nord-ouest. Donc rivalité pour les pâturages, car quand vous avez un hiver qui dure 8 mois, au printemps la neige fond, les pâturages arrivent, et ce sont les moutons assyro-chaldéens ou les moutons kurdes qui vont brouter. Somme toute, si le mouton kurde passe le premier, le village assyrien meurt de faim, et si le mouton assyro-chaldéen passe le premier, c'est le village kurde qui meurt de faim. Ce qui explique que depuis des siècles, on se bat à coups de fusil. Malheureusement, les Kurdes étant plus nombreux et ayant des appuis essentiels en Occident, ils ont été aidés par Israël, par l'Amérique, par la France. Alors vous connaissez nos grands cultivés, qui d'ailleurs ne savent pas qu'il y a plusieurs langues kurdes, une dame patronesse, vous savez.
Mitterrand.
Oui, femme d'un type qui a la capacité en droit. C'est des gens de haute culture. Elle parle des Kurdes, elle ne sait pas ce que c'est un Kurde. Elle ne sait pas qu'il y a au moins 5 langues kurdes, mais enfin.
Elle les aime, elle les aime.
Il y a aussi Bernard, vous savez Bernard, le médecin, là.
Le porteur de
lui, il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme le docteur d'or. Bernard le Grand, c'est un homme qui est pour une sorte, comment dirais-je, d'eugénisme. Il laisse pas vivre, naître tout le monde. Mais revenons à nos moutons. Alors, on descend
un peu. À nos moutons assyro-chaldéens.
Voilà. On était dans les montagnes et on descend un peu ce que les géographes appellent le piémont. Alors, de façon intéressante, le chrétien assyrien, comme le kurde, sont dans les montagnes. Quand vous commencez à descendre, c'est le syriaque. Le syriaque est un homme de piémont. Alors, le syriaque, c'est un descendant des malheureux monophysites qui ont été exclus après avoir régné 10 ans au concile de Chalcédoine. Et rassurez-vous pour le parlementarisme chrétien, au concile de Chalcédoine, on a chassé à la fois les Arméniens, fils aînés de l'Église, 302, les Coptes, les Éthiopiens, et quoi encore, qu'est-ce que j'ai oublié, les Syriacs, on a chassé tout le monde. Somme toute, tous les chrétiens du 1er siècle ont été chassés par le concile de Chalcédoine, que j'avoue, je n'aime pas, en dépit du fait que je sois actuellement entouré par deux, quand même. Mais vous êtes quand même, ceux qui m'entourent sont des gens loyaux, mais un peu réfractaires à la dégénérescence, donc ils sont un peu de l'opposition.
Je sais pas si la tradition du Péragouache irait jusqu'à nier la validité du concile de Chalcédoine.
Pas du tout, mais c'est vrai que quand je suis allé là-bas, dans ces villages, parce que j'y suis allé, dans le nord de l'Irak, j'espère que je vais pas prononcer le mot Kurdistan, mais...
vous l'avez prononcé!
c'est vrai que j'ai vu les Nestoriens, j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de différences, et actuellement, quand on interroge un catholique, il nie, je sais pas combien de dogmes, et ils sont sûrement plus proches de l'Église catholique pour certains qu'on voudrait bien le croire. Et ils sont très proches.
Oui, alors c'est intéressant parce que les catholiques traditionnalistes, finalement, qui sont assez purs et durs, considèrent ces chrétiens comme hérétiques, mais comme ils sont purs et durs, ils sont solidaires des chrétiens qu'ils considèrent en même temps comme hérétiques, et finalement les rapports, aussi bien des orthodoxes en Russie et des araméophones au Moyen-Orient, sont bien meilleurs avec les catholiques traditionalistes qu'avec les catholiques conciliaires. Parce que les catholiques conciliaires sont à, comment dirais-je, bouche à bouche avec l'islam et le judaïsme, tandis que les chrétiens d'Orient préfèrent évidemment les catholiques traditionalistes qui sont chrétiens, évidemment différents, et ça crée de bons rapports. Cela étant, alors on va descendre un peu, on était dans le Piémont, et le père l'a expliqué, je crois qu'il a dit le nom du bourg, Caracoche était jusqu'à quelques années un bourg d'environ 25 000 habitants, où il y avait évidemment 10 églises. Je vous fais grâce de leur nom. Il y a toujours une église de la Vierge chez les Syriaques, parce que les Syriaques tiennent beaucoup à ne pas être Assyriens. Comme les Assyriens s'étaient demandé si Marie était mère de Jésus ou de Dieu, les Syriaques, au contraire, en rajoutent. Toute église syriaque qui se crée, même à Montfermeil, s'appelle tout de suite Marie, Mère de Dieu. Parce qu'il faut bien marquer qu'on n'est pas Assyrien. Et entre Assyriens et Syriaques, du temps où ils étaient moins persécutés, ils se bagarraient volontiers. C'est normal, c'est comme les luttes entre villages, en Transylvanie ou ailleurs. Alors, nous descendons encore et nous arrivons dans la plaine de Mossoul. Et quand on est en plaine, on a en général la variété des 10 physites rattachées à Rome. Car les rattachements à Rome sont venus. Moi, personnellement, je pense que maintenant, ils sont un peu bizarres. À l'époque, ils étaient justifiés parce que quand on se dispute avec son patriarche, on cherche une autorité solide et protectrice. Mais de nos jours, si j'étais Assyrien, je ne me rattacherais certainement pas à Rome. Mais bon, cela étant, je ne vais pas dire du mal de Rome. D'ailleurs, Rome n'est pas le Vatican.
On ne peut pas dire du mal du Vatican et des francs-maçons le même soir. Il faut choisir quand même. Donc on mettra le Vatican plus tard, si vous voulez.
Cela étant, pour cette malheureuse guerre de religion protestant contre le reste des croyants, il faut dire que le Vatican alors a dû flairer que c'était une guerre de protestants, parce que le Vatican a été moins net pour les guerres de Bosnie et du Kosovo, dans lesquelles il a plutôt été du côté des musulmans. Mais laissons tomber cette question. Alors nous arrivons à Mossoul, et Mossoul est entouré de villages plutôt chaldéens. Le chaldéen, c'est l'Assyrien rattaché à Rome. Tous ces rattachements se produisent entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ils ne sont pas aussi merveilleux qu'on ne pense. Ce n'est pas parce qu'ils découvrent la vraie foi, c'est parce qu'ils se disputent avec leur patriarche et qu'ils leur disent, Abouna, le patriarche, on lui dit plus que ça. On lui dit, écoute, il est saint. Alors, on lui dit, sainteté, vous nous embêtez, on va aller trouver une autre sainteté. Et à l'époque, c'était utile. C'était même peut-être agréable. Alors, je continue sur l'Irak et là je tombe, comme je fais ça tous les étés depuis 45 ans, je prends le bus maintenant. Au début je prenais ma voiture, mais il y a des embuscades kurdes et puis les carburants sont très chers en carburant et je vieillis.
Les carburants sont chers en Irak ?
En Turquie ? En Irak, vous faites le plein avec, je ne sais pas combien, 10 centimes d'euros, c'est un prix absolument dérisoire. Mais, alors à ce moment-là, vous êtes dans cet Irak plat que les Flamands pourraient aimer, c'est le plat pays.
Et fertile ?
L'Irak, mais l'Irak n'est pas sans fertilité. Seulement, il est vrai que dans justement la bataille par laquelle les Kurdes, en ayant 4 femmes et en faisant 40 enfants, réussissent à faire l'épuration ethnique, car le Kurde chasse ou massacre celui qu'il gêne, comme d'autres peuples à qui la France a donné de grandes aides dans l'histoire. Et le Kurde donc, comment dirais-je, j'ai perdu le fil de votre question.
On parlait de la fertilité.
Oui, alors,
économie pastorale dans les montagnes. Et maintenant, on a de l'agriculture dans la plaine de Mossoul.
Alors, les Syriaques, en général, avaient des terres très fertiles. Mais moins en Irak qu'en Turquie. En Turquie, les Kurdes, qui n'avaient aucune terre fertile. Quand vous lisez les missionnaires et les voyageurs du 19e siècle, le Kurde est un bandit, un pillard. Il n'a pas de terre. C'est un vagabond. Une sorte de SDF. Mais ça a changé, et petit à petit, les Kurdes, du fait qu'ils font énormément d'enfants, alors là, on rattrape la politique nataliste, 4 femmes et 40 enfants, évidemment, nous sommes loin d'en faire autant, nous. Donc, la démographie kurde galopante leur permet de chasser les Syriaques des terres fertiles et de les accaparer. Et les terres sont très fertiles. Vous avez des endroits dans le sud-est de l'Asie mineure qui sont extrêmement fertiles. Dans le nord de l'Irak aussi. Alors, quand vous tombez dans la plaine irakienne, c'est moins fertile. Entre Mossoul et Bagdad, à la sortie de Mossoul, il y a un peu de montagne. Mais après ça, vous tombez dans la plaine, alors Samarra, et vous allez rapidement, vous êtes dans la plaine du Tigre. Mais j'aime pas le mot plaine du Tigre, parce que la plaine du Tigre, quand vous ne voyez pas l'horizon, vous n'avez pas l'impression d'être en plaine, vous avez l'impression d'être dans, je sais pas, sur une galette. Cela étant, le Tigre, évidemment, est très fécondant, mais dans toutes les combines mondialistes, n'oubliez pas qu'on a donné aux Turcs de l'argent pour faire des barrages sur l'Euphrate et le Tigre, et que moi j'aimais beaucoup la crue de printemps du Tigre, c'était comme la crue de printemps de tous ces fleuves qui descendent des montagnes, c'était fabuleux, c'était cataclysmique, ça enlevait tout au passage, mais ça apportait du limon. Malheureusement, on a donné aux Turcs de l'argent pour faire des barrages, et maintenant, le Tigre est presque un ruisseau au nord de Mossoul. J'ai bu l'eau du Tigre, mais ça, c'est mythique, c'est mystique, enfin, appelez ça comme vous voudrez. C'était pour célébrer mes 40 ans de haute Mésopotamie, j'ai bu l'eau du Tigre, mais j'en ai bu très peu.
Vous l'avez fait bouillir avant, peut-être
pas. Non, mais je tenais pas à attraper une bilharzio ou des trucs comme ça. De toute façon, j'ai eu mes deux amibias, mes deux lambliases, et j'ai une hépatite A. Ça, c'est la rançon.
Vous êtes équipé pour
un moment. Vieux colonial. Alors, j'espère que Bush attrapera quand même quelque chose. Mais cela étant, alors on tombe dans la plaine, un Irak extrêmement plat, et Bagdad, par exemple, il y a encore... Les palmiers vont plutôt commencer, il y en a, dès le nord. Mais le palmier, c'est plutôt le sud de Bagdad. Alors, vous tombez dans un autre paysage, vous ne voyez pas l'horizon. L'horizon, ce sont les monts du Zagros qui séparent de l'Iran, il est quand même à 200 kilomètres. Ou bien ce sont quelques monticules du désert en Jordanie. Et sur ma carte, vous allez jusqu'à l'Iran, c'est vrai. Mais vous êtes un peu au nord sur la carte. Alors la carte, en fait, c'est la confluence du christianisme essentiel du 1er siècle. Mais évidemment, si j'étais musulman, je dirais c'est la confluence turco-irano-irako-syrienne. C'est-à-dire, c'est là que se rencontre d'ailleurs historiquement. Byzance se battait avec la Perse sur le Tigre. L'Empire ottoman se battait avec la Perse chiite, l'Empire ottoman étant sunnite, sur le Tigre. Et finalement, le fleuve intéressant. Moi, j'aime pas le terme de Mésopotamie. Il est normal géographiquement. Mais mon domaine, c'est le Tigre. C'est pas la Mésopotamie. Car je m'occupe aussi bien des gens de l'Est du Tigre que de l'Ouest. Alors là-dessus, pour répondre à votre question géographique, je descends au sud de Bagdad. Des palmeraies immenses commencent de la date. La date irakienne est bonne, mais ils la mangent un peu verte. Elle est un peu amère, mais c'est leur style. Et vous arrivez dans d'immenses palmeraies, et vous allez à ce moment-là, j'ai fait ça dans le temps en voiture, je le fais maintenant en bus, etc., ou en taxi collectif, ou en minibus. Il y aura de plus en plus de palmiers jusqu'à Basra. Alors là, c'est la ville martyre, mais vous savez que les Américains sont des gens très sophistiqués. Une bombe à fragmentation, c'est fantastique. Il y en a pour 6 mois. Pendant 6 mois, ça va éclater. Moi, si j'étais des Irakiens, j'y mettrais les prisonniers américains. Attachés. Comme ça, ils sauront que ça va éclater. Bah écoutez, on a le droit de se servir du bouclier humain de ceux qui font l'arme interdite. Alors vous arrivez à Bassora, ville de canon, on l'a appelée la Venise de l'Orient. Avant, vous êtes passé par Gourna, vous parliez de l'arbre d'Abraham, le confluent de l'Euphrate et du Tigre qui n'est pas sur ma carte. Moi, je suis un homme du Nord là-bas. C'est timide.
Et ça s'arrête juste.
Oh, ça s'arrête loin. Bagdad est encore loin. Ça s'arrête un peu au sud de Mossoul. Mais Bassora se trouve un petit peu à l'ouest du Chatt al-Arab, qui marque la confluence entre l'Euphrate, qui vient de Transcaucasie.
Le Chatt al-Arab, c'est une espèce de...
C'est la marais, confluence entre l'Euphrate et le Tigre. C'est pas un marais. Non, c'est un immense bras fluvial qui naît à Gourna, où il y a l'arbre d'Abraham. Je ne sais pas si Abraham l'a arrosé beaucoup. Mais enfin, c'est l'arbre d'Abraham. Et il est de bon ton de s'assurer que c'est bien l'arbre d'Abraham. Et là-dessus, vous avez le Chatt al-Arab sur lequel les Iraniens ne voulaient pas retirer leurs drapeaux nationaux, ce qui a provoqué cette guerre idiote qui a un peu épuisé ces deux pays, par ailleurs intéressant. Et vous arrivez à Fao. Alors, je suis allé en voiture jusqu'à Fao, mais c'était dur parce que la piste était très mauvaise.
Fao, c'est la fameuse presqu'île, enfin, voilà. La péninsule, peut-être.
Alors, moi, évidemment, je me réjouis que les Américains... Alors, on dit les Américains progressent de 40 km par heure, mais ça fait 4 jours qu'ils sont à 80 km de Bagdad. Oui, oui. Donc, à 40 km par heure, il faut croire qu'ils font un peu comme certaines armées, 2 pas en avant et 3 en arrière.
C'est peut-être comme les carabiniers d'opéra, vous savez, marchons.
J'espère que tous leurs tanks tomberont en panne, parce que c'est le pognon qui les intéresse, et je suis content qu'il y ait une tempête de sable. Je ne veux pas faire trop de déisme,
la tempête divine est bien tombée. Il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire, c'est que la précédente opération s'appelait Desert Storm, la tempête du désert.
Oui.
Et là, ça leur revient, il y a un mauvais coup de vent. Quoi.
Écoutez, c'est comme la Première République française, quand vous assassinez les gens, ça ne peut être qu'au nom de la liberté, c'est les colonies infernales. Donc liberté pour l'Irak, moi je trouve ça formidable. Oui. J'aurais même dit liberté pour le peuple irakien, c'était plus long, mais ça sonnait mieux. Oui. Liberté pour l'Irak, on a l'impression que c'est un balayage, une sorte de nettoyage par le vide.
Alors, vous nous avez parlé du paysage, enfin vous nous avez décrit... à la fois le paysage et l'implantation des différentes communautés ou des différentes communautés.
Alors il y a des chrétiens à Bassora, il y en a dans le sud, mais leur endroit autochtone, leur endroit, si vous voulez, poétique, c'est le nord.
Et alors, comment sont les gens quand vous les fréquentez? Parce que j'entendais ce matin sur, je crois que c'était sur Europe, quelqu'un qui téléphonait en disant, c'était un médecin qui était là-bas pour une ONG à la suite de la précédente guerre, et qui disait, les gens sont extrêmement gentils, accueillants, etc. Est-ce que vous avez eu...
Ça frappe, parce que l'été dernier, j'étais allé visiter, enfin faire le répertoire des communautés assyriennes, chaldéennes et syriaques de la région d'Urumia, de Téhéran et les Arméniens de Djulfa, et j'arrive avec ma valise et mon sac à dos. Je suis fouillé en Iran par une dame au tchador et qui avait plein de bracelets en or, mais la pauvre, elle avait peur de perdre son tchador devant moi, donc elle fouillait mes bagages avec quatre doigts, comme les gens qui jouent du luth. C'était une fouille très discrète. Et là-dessus, je quitte l'Iran. Alors, les Iraniens sont charmants, parce qu'ils sont tellement diabolisés par les médias occidentaux. Présentez-vous en Iran, vous serez automatiquement bien accueillis. Ah, vous venez de France, ça va. Si vous venez d'Amérique, moins bien. Mais grosso modo, il faut dire qu'ils détestent les ayatollahs. Et quand je prenais le bus à Téhéran, les gens, voyant que j'étais étranger, commençaient à me dire du mal des ayatollahs. Et ça durait tout le temps que durait le trajet du bus. Mais j'arrive à la frontière. Alors, je reviens à mes moutons, les moutons assyro-kurdes. Et j'arrive à la frontière irakienne, et c'est vrai que l'Irakien, est-ce que c'est une névrose due au climat qui est quand même très dur? L'Irakien a un côté romantique, instable, extrêmement chaleureux. C'est peut-être le climat, parce que tous les Irakiens se ressemblent dans le côté chaleureux. Or, pourtant, les Irakiens, c'est très varié. Ça a beau faire partie du sacro-saint Watan al-Arabi, la patrie arabe. Il y a que 75% d'Arabes, et encore c'est très métissé des voisins. C'est par définition, c'est l'ancien califat abbasside qui par définition était, on va dire, interethnique, pour pas dire cosmopolite, parce que ça, je crois que c'est réservé aux francs-maçons, le cosmopolitisme.
Puis c'est des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer.
Alors, les Irakiens sont toujours gentils, et je dirais comme les Iraniens actuellement, ils ne sont plus que les Iraniens, parce qu'ils sont d'un naturel plus exalté. C'est pourquoi ils sont souvent bons peintres et bons architectes, bons sculpteurs. C'est l'exaltation, peut-être climatique. L'Irakien est toujours extrêmement accueillant. Faut dire que de toute façon, le Proche-Orient est toujours bien accueillant. Ils le sont plus que leurs voisins. Ils sont chaleureux. Mais aussi, un peuple qui est sous blocus et qui est victime de l'opprobre mondial, quand un étranger vient à lui, se dit, celui-là n'a pas eu peur de venir. Donc vous êtes toujours mieux accueilli dans un pays sous blocus que, on va dire...
Aux États-Unis, par exemple.
Oh, moi, je trouve les Américains infects. J'ai un frère polytechnicien qui est devenu américain. J'ai horreur des Américains. J'en ai une phobie. Faut dire aussi que mon père avait des gisements et des puits de pétrole en Amérique. Donc, ils ont été nos fellahs, les Américains. Et comme moi, je suis pauvre, maintenant ruiné, vivant, tout ça ayant été perdu dans des combines guerrières et autres... mes anciens fellahs maintenant viennent me bombarder. Ils sont venus me bombarder quand même à la fin de la guerre. Ils ont venu me montrer qu'ils bombardaient mal. C'est quand même gentil. Moi, j'ai été bombardé à Neuilly. Mais donc,
mais on n'a pas compris que c'est pour vous libérer. Vous êtes comme les Irakiens, vous comprenez rien.
Les anciens fellahs, mais oui, c'était mais oui, quand ils sont venus, ils disent « We came to fight for democracy ». Pardon d'avoir roulé l'air, c'est parce que je pense à des Irakiens qui parlent anglais. Donc, le Big Brother, etc., s'annonce toujours par des bombes. Remarquez, c'est une façon de se faire connaître. Oui. Au théâtre, autrefois, il y avait des roulements de tambour, le théâtre de boulevard, il fallait faire taire les gens, donc on faisait du bruit. Donc l'Américain fait du bruit, il assourdit, et comme ça, il peut parler.
Mais enfin, à contrario, comment se fait-il, peut-être pouvez-vous nous l'expliquer, monsieur le professeur, que Saddam, qui est si méchant, n'ait pas produit ces fameuses armes de destruction massive? Je lis dans un journal paraissant le mercredi aujourd'hui même qu'il a tiré une dizaine de scud et qu'ils sont presque tous tombés dans la mer. Deux ont fait un trou dans le sable et les Américains eux-mêmes qui les ont relevés, les impacts, ont été saisis de pitié en voyant la pauvreté technologique de ces engins qui non seulement ne contenaient pas de charges de destruction massive, mais même pas de charges bactériologiques ou chimiques, et même pas de charges chimiques, de charges classiques. Quand va-t-il nous sortir ces armes de destruction massive?
Ah, alors, là, c'est peut-être le point faible de notre ami Saddam. Vous savez que Saddam aimait beaucoup les chrétiens. Il a un côté très oriental et très princier, comme tous ses parvenus de la politique. Je ne vais pas dire du mal de lui, mais grosso modo, il fait partie de tous ces présidents du monde arabo-islamique ou du tiers-monde, même si l'Irak a fait partie de mieux que du tiers-monde avant le blocus. Et grosso modo, un petit peu de mégalomanie, un petit peu de vanité et pas énormément de culture. définit la plupart des chefs d'État.
Pas en France.
D'ailleurs, en France, c'est pareil. Et en Amérique, c'est pareil. La culture de M. Bush ne m'éblouit pas. On a dû lui faire répéter dans son sommeil où était l'Irak, afin qu'il n'y eût pas de confusion. Alors, Saddam aimait les chrétiens. Il avait un défaut qui, moi, m'agace en tant que musicologue, amateur de musique traditionnelle ou de liturgie. C'est qu'en partant, il laissait un chèque, et qu'avec le chèque, ces valeureux chrétiens qui ont des chants magnifiques, des chants pythagoriciens, enfin des chants en intervalles non tempérés égaux, ont acheté des orgues. Et des orgues Yamaha version libanaise en quart de ton, c'est abominable. Le quart de ton, c'est une invention diabolique. Alors là, ça doit être maçonnique, le quart de ton. Parce que c'est vraiment le diable qui a inventé le quart de ton. Et malheureusement, à la sortie, alors comme tout à l'heure, vous nous avez passé un tango, la dernière fois que j'étais à Caracoche, pas la dernière fois, c'est l'été dernier, à la sortie de la messe, eh ben, le type, il a joué un tango. Et il paraît qu'au XVIe siècle, dans les sorties de messe, les organistes jouaient des choses légères. À l'époque, il n'y avait pas tout le répertoire qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas toutes ces innombrables sorties de messe composées par des musiciens, comme Bach, Schubert, etc. Mais, pour revenir à Saddam, alors Saddam a beaucoup aimé les chrétiens jusqu'au jour où il a fait la guerre à l'Iran, ce qui, à mon avis, est une erreur, et où Khomeini, qui connaissait un peu son histoire, Saddam a dit « Je suis d'origine chrétienne puisque je suis de Tikrit, ville qui a été un évêché syriaque orthodoxe jusqu'au XVIe siècle. » Mais vous savez que sous l'Empire ottoman, les pressions énormes étaient faites pour faire convertir les gens à l'islam. Alors, Saddam a eu le malheur de dire qu'il se sentait d'origine chrétienne et qu'il n'en avait pas honte. Là-dessus, mon ami Khomeini a dit, voilà, le Nosairi, c'est-à-dire le Nazaréen, Nosairi, le Nosairi, nous faisons la guerre au Nosairi. Alors du coup, Saddam s'est mis à rentrer dans les mosquées, c'est jamais très pieux, ces hommes politiques, même pas Tarek Aziz, hein. Madame Tarek Aziz, je la vois à l'église, elle communie, mais lui, il y va pas souvent. Un homme politique ne va pas beaucoup dans les églises.
Il va sur la tombe de Saint-Antoine, quand même.
Oui, la tombe de Saint-Antoine.
En Italie. Ah, ça vous a échappé, ce beau geste diplomatique?
Je ne savais pas quand est-il allé sur la tombe de Saint-Antoine.
Il y a environ un mois, il a fait un voyage à Rome et il s'est rendu très pieusement sur la tombe de Saint-Antoine. Je profite que je vous ai pris la parole pour noter que vous esquivez la question sur les armes de destruction massive. Alors, je donne non pas ma réponse, bien sûr, mais celle de Robin Cook, ce ministre anglais qui a démissionné, comme quoi M. Blair n'a pas l'unanimité, même pas de son gouvernement derrière lui, et qui vient de faire une déclaration selon laquelle c'était les Américains qui avaient vendu les souches de l'anthrax aux États-Unis. À l'Irak, c'est-à-dire donc un élément essentiel de ces armes de destruction massive qu'ils n'ont, je le répète parce que ça me paraît essentiel, puisque c'était le prétexte de l'agression, toujours pas pris sur le coin du nez.
Mais il est vrai, alors Saddam a terminé la guerre du Golfe. Alors les Kurdes gazés à Chaklawa, ça c'est possible, mais enfin, entre les colonnes infernales en Vendée et l'armée de Saddam contre les Kurdes en insurrection, je préfère ce qu'ont subi les Kurdes à ce qu'ont subi les Vendéens. En plus, les Vendéens, c'était les femmes et les enfants. Mais enfin, revenons au mouton. Alors, Saddam Hussein, il est un peu... c'est pas un homme absolument diabolique. C'est un homme, assez vaniteux. Il y a son portrait tous les 100 mètres, ou tous les 300 mètres, en grand format.
Comme le maire de n'importe quelle petite bourgade de France, dans son journal municipal.
Oui, il y en a moins que des portraits de Hafez al-Assad en Syrie, mais il y en a beaucoup. Et l'avantage, c'est qu'ils sont variés. Quelquefois un chapeau, quelquefois un chapeau mou, un chapeau de chasseur avec une plume, une tenue de bédouin, une tenue militaire. Mais il faut que je vous réponde. Il n'a jamais utilisé ses armes jusqu'à présent. Alors, et tout ça, c'est peut-être un mythe.
Je vais vous redonner la parole dans deux minutes, mais on arrive à la coupure fatidique, vous savez, ce qu'on appelle la coupure technique dans notre radio. Et donc, je vais vous demander d'observer la coupure technique.
J'ai deux petits commentaires. Les chrétiens de Bagdad ont consacré leurs églises à la Vierge. C'est une excellente émission, précise, claire. Puisse-t-elle ouvrir les yeux de ceux qui les ont fermés.
Enchanté, ravi, ça nous change. Les élucubrations de... Alors là, un nom que je ne peux pas lire, malheureusement. Il est mal orthographe, il est mal écrit, c'est illisible, j'arrive pas à le lire,
ils écrivent mal
les standardistes écrivent parfois d'une façon un peu bruyante. Bravo à l'intervenant, voilà. Mais naturellement, ça y est, Radio Courtoisie redevient Radio Bagdad, c'est lamentable. Ça me fait rire parce que tout le monde sait ce que c'est que Radio Bagdad, en tout cas chez les scouts, on sait ce que c'est. Coupure technique, et à tout de suite avec Jean-Claude Chabrier. bien, nous reprenons l'émission. Nous ne reprenons pas l'émission directement avec Jean-Claude Chabrier, parce que Jean-Claude Chabrier et le Père Argouache se sont découverts des passions communes pour l'Irak. Je savais pas du tout que le Père Argouache connaissait l'Irak à peu près comme sa poche. Et donc ils sont allés dans le
confessionnal Long Cause.
Non, pas voilà, le salon Long Cause pour converser. Ils vont revenir tout à l'heure, ce qui nous permet de recevoir Cécilia pour son émission et l'invité de Cécilia qui est monsieur Baraton qui est déjà venu dans cette émission, mais Cécilia vous dira tout ça.
Déjà, oui.
Avant de donner la parole à Cécilia et à son invité, on va lire quelques annonces pour se faire bien voir de Victoria qui me fait le reproche à chaque fois de ne pas lire.
Lui faire faire au galop.
Et je voudrais quand même. Non, je le dirai tout à l'heure, ça, voilà. Allez.
Alors, dites-nous. Aujourd'hui, mercredi 26 mars à 20h30, en l'église Saint-Louis de Port-Marly, dans les Yvelines, la chapelle Lénie Notre-Dame de France recevra le père de Robert qui donnera une conférence sur le thème Saint Padre Pio, maître spirituel. Jeudi 27 mars, mi-carême, à partir de 20h30, chez la mère agitée 21 rue Campagne Première, dîner en chantant avec le chœur Montjoie Saint-Denis, pour 25€ tout compris.
Et en chanteur en plus.
Et vous pouvez vous inscrire au 01 43 35 56 64.
Vous irez, Marquis ?
Bien sûr.
Bon.
Rencontre culturelle de Paul Biller, samedi 29 mars. Joséphin Péladan.
Ah, le sar Péladan.
Café Le Bourbon, encore 85. En formation, 85 rue de l'Université, métro Assemblée Nationale, 15h. Alors je rappelle que pour le docteur Dor, vous allez le vendredi 28 mars à 19h devant le siège du Grand Orient de France, 16 rue Cadet, pour manifester. Pour SOS tout petit. Samedi 29 mars, de 15 à 18h30, Christian de la Mazière dédicacera le rêveur blessé. Attention, les derniers exemplaires du rêveur casqué, encore disponibles en France, une vingtaine, seront en vente exclusive à cette occasion à la librairie France Livre. Il est conseillé de téléphoner pour les réserver au 01 43 25 36 67. Tous à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Le chœur Montjoie Saint-Denis.
Encore ?
Toujours les mêmes.
J'arrête pas.
Présente le Christ, la Sainte Vierge et les Saints de France à travers le chant populaire traditionnel. Et vous pourrez les entendre le jeudi 3 avril à 20h15. À 20h15, mais non. À 20h15, à la chapelle du Sacré-Cœur, 20 rue Gerbert, Paris 15e, métro Convention, Ouvo-Girard. Participation aux frais libres. Les œuvres disponibles du chœur seront en vente sur place. Les adhérents MNR et sympathisants du 11e, 18e, 19e et 20e arrondissement se réunissent en présence de Loïc Lehenan, conseiller régional MNR Île-de-France, le samedi 5 avril à 14h30. Et pour tout renseignement, vous pouvez appeler le MNR au 01 56 56 64 34.
Non, il en reste une, elle me fait
vendredi,
plus importante.
On me l'avait caché. Vendredi 28 mars à 18h à la cathédrale Sainte Rita, messe pour la paix célébrée par j'étais en train de mettre son excellence, écoutez, son éminence.
C'est pas un ambassadeur.
Pourquoi il s'appelle DH?
Dominique Hubert.
Merci. Son Excellence Dominique Hubert Philippe, archevêque,
primat
de l'Église catholique gallicane. 27.
Vous sortez des écoles de la République, vous en sixième, vous ne savez pas lire.
Comment je ne sais pas lire?
Dites-moi que c'est mal écrit. Hein.
C'est peut-être très bien écrit, mais entre-temps, ma vue aurait quelque peu baissé.
Alors c'est mal écrit, soyons gardes.
Voilà, soyez gentils avec moi. Et ça se passe donc 27 rue François Bonvin, Paris 15e, au métro Volontaire et Sèvres-le-Courbe.
Voilà.
Vous savez tout.
Merci Victoria. Maintenant, nous laissons la parole à Cécilia et à son invité avec nos excuses pour ce petit retard. J'espère, M. Baraton, vous n'en tiendrez pas rigueur de vous avoir retenu contre votre gré.
Thank you. Bien, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir Alain Baraton, que nos auditeurs d'ailleurs connaissent déjà, puisque vous êtes venu au moins deux ou trois fois. Vous êtes, alors on va vous représenter quand même, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Et vous étiez venu nous parler de la catastrophe de 1999, que vous considériez presque comme un bienfait pour votre parc, puisque ça vous permettait d'agir alors que vous ne pouviez pas le faire auparavant.
Eh bien, je crois que les travaux qui se déroulent actuellement ont donné raison, justement, voilà, à cet optimisme.
Et puis vous êtes venu une autre fois nous parler de la restauration du domaine de Trianon. Où en sommes-nous? Est-ce que bientôt nous allons revoir Trianon tel que Marie-Antoinette le connaissait? Vous nous l'aviez promis. Est-ce que c'est pour bientôt?
Eh bien, depuis la tempête, depuis les travaux de restauration, depuis cet hiver de 1999, l'ensemble du parc est en train d'être replanté. Des milliers d'arbres et d'arbustes sont déjà en place dans les jardins de Trianon, des centaines de lilas, des fleurs de toute origine et de toute espèce. Et effectivement, si le parc est encore limité dans son accès, l'ensemble ouvrira assez rapidement aux visiteurs, mais tout est vraiment métamorphosé.
Voilà une bonne nouvelle. Alors, ce soir, vous venez avec un livre qui est consacré aux écorces, qui s'intitule d'ailleurs Le monde des écorces, qui est quelque chose d'absolument fascinant. Mais auparavant, je vais faire une petite annonce. Nos auditeurs se souviennent de la très charmante modiste que nous avons reçue le mois dernier, Marie-Clémence Dalmas, qui est créatrice de chapeaux, et principalement avec des éléments végétaux. Et alors, elle annonce qu'elle procède à une vente exceptionnelle. Le vendredi 28 mars de 13h à 22h, le samedi 29 mars de 11h à 19h, le dimanche 30 de 15h à 18h, alors à vos crayons, chez Madame Galichon, 6 rue de Seine, Paris 6e. Alors le code de la rue, c'est le 25 687. On prend le perron au fond de la cour et le code, là, est le 25 780, premier étage à gauche. Et je crois que même si on n'a pas envie d'acheter un chapeau, ça vaut vraiment la peine d'aller voir les créations de cette jeune artiste parce que c'est tout à fait exceptionnel. Alors nous revenons à votre livre qui s'intitule « Le monde des écorces » d'Alain Baraton, bien entendu, aux éditions du Rouergue. Il se présente un petit peu comme un manuel, mais il est quand même très accessible à tout le monde parce qu'il a d'abord illustré de superbes photos. On peut citer le photographe Christophe Madamour,
effectivement.
Et bon, vous commencez par... vous allez nous en parler vous-même. Vous l'avez conçu comment et pourquoi?
Alors déjà, je souhaiterais rendre à l'auteur, je dirais, pas à l'auteur, à la personne qui a eu l'idée de cet ouvrage, c'est Jean-Pierre Coff, ce qui explique d'ailleurs qu'il a eu la gentillesse de signer la préface.
De le préfacer, oui, c'est exact.
Nous avions, et nous avons toujours l'intention d'écrire un livre sur les arbres d'ornement, mais nous avons été tous les deux en admiration dans certaines pépinières de la beauté de certaines écorces que nous connaissions, mais de voir l'ensemble de ces arbustes côte à côte nous a donné à Jean-Pierre Coff l'idée donc de cet ouvrage. Il m'a donc confié sa réalisation.
Et surtout à la saison dont nous sortons. En hiver, c'est là que l'écorce des arbres prend toute sa valeur. Quelques-uns d'ailleurs changent de couleur et c'est vraiment extraordinaire.
Et justement, l'écorce a une valeur permanente. Il faut se souvenir que c'est l'écorce que l'on voit en premier chez un arbre. Lorsque vous circulez à bord d'une voiture, que vous êtes sur une nationale, c'est l'écorce des arbres qui borde, que vous apercevez en premier. Dans une forêt, à moins de lever la tête vers le ciel, ce sont le tronc des arbres que vous apercevez. Et puis quand vous touchez un arbre, que vous avez besoin du contact, c'est l'écorce que vous caressez. Et j'ai trouvé intéressant de faire un ouvrage qui est écrit de façon simple, mais pas simpliste, qui s'adresse donc à l'ensemble des amoureux de la nature. C'est une sorte de guide. C'est un ouvrage qui permet de choisir l'écorce idéale. Chaque arbre est traité avec une petite notice explicative qui permet vraiment, je crois, de mieux connaître les arbres à écorce.
Alors, vous commencez par une sorte d'introduction en disant d'ailleurs quelles sont les fonctions de l'écorce. Et moi, j'ai découvert des choses. Je ne savais pas que l'écorce pouvait servir à toutes ces choses.
L'écorce n'est pas seulement une peau. On a souvent pensé que l'écorce était
une
peau.
C'est une protection déjà.
Une protection. L'écorce protège les organes vitaux du tronc. Et c'est par le tronc, justement, que la plante vit, par ce que l'on appelle des faisceaux qui transportent la sève. Il faut donc les protéger du froid, du gel, du feu, du vent, etc. L'écorce sert à cette protection. L'écorce est également un lieu où la plante élimine certaines de ses, j'allais dire toxines entre guillemets, de certaines de ses de, 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 composantes dont elle n'a plus besoin, qu'elle fabrique comme les résines, par exemple, ou le tanin, qu'elle évacue à travers l'écorce.
Le latex aussi, pour les arbres exotiques.
Voilà, on utilise effectivement, le latex est produit grâce à l'écorce. Et puis l'écorce a également une fonction que peu de gens savent, et je l'explique d'ailleurs dans cet ouvrage, c'est qu'au printemps, la plante a besoin d'une gigantesque énergie pour sortir des milliers de fleurs, des milliers de feuilles. Il lui faut une énergie. Et l'énergie puisée dans le sol ne suffit pas. Et l'écorce est également une zone de réserve dont l'arbre, que l'arbre utilise au printemps, au moment de ce que l'on appelle le débourrage.
Et puis alors, des fonctions qu'on a peut-être un peu oubliées de nos jours, les fonctions tinctoriales.
Les écorces ont eu un grand rôle dans l'industrie, qu'elles soient chimiques, industrielles. La glu, par exemple, vient de l'écorce de houx. Beaucoup d'écorces ont servi et servent toujours à la fabrication de certains alcools. Je pense par exemple au quinquina, qui est une écorce. Oui. Les fins gastronomes qui nous écoutent savent certainement que la cannelle est une écorce qui est raclée et broyée.
On a appris ça il n'y a pas très longtemps.
Mais l'écorce avait beaucoup d'autres fonctions. Elle en a d'ailleurs toujours beaucoup. Et puis on prête également de temps en temps des vertus quelque peu particulières. On prétendait, et j'emploie le conditionnel, vous remarquerez ma grande prudence, on prétendait qu'au Moyen-Âge, la macération d'écorce dans l'urine permettait à celui qui s'y baignait de ne pas être bossu et évitait aux femmes de tomber enceintes. Il y a quand même beaucoup de précautions, bien sûr, dans les propos. Mais oui, que l'écorce a toujours été important, mais surtout, une grande invention qui vient directement de l'écorce. Le pharmacien Leroux, qui a vécu au début du 19e siècle, découvre dans l'écorce de saule, la salicine, ce qui deviendra l'aspirine. Donc l'aspirine est issue à l'origine de l'écorce.
Et d'autres écorces sont utilisées. L'écorce de l'if, je crois aussi, a des propriétés.
Beaucoup, l'écorce de l'if a par exemple des propriétés antitumorales. L'écorce de pin a également beaucoup de propriétés. Beaucoup d'arbres produisent des écorces intéressantes dans la recherche pharmaceutique. L'écorce d'if, par exemple, rentre également actuellement dans la composition de certains produits qui luttent contre le cancer. Donc beaucoup de laboratoires s'intéressent de plus en plus à cette écorce. Et puis je crois qu'on n'a pas encore exploité à fond le potentiel des écorces.
J'ai eu à me défaire il y a quelques années d'un if qui était encombrant pour le voisin. Et j'ai demandé à mon pharmacien comment je pouvais procéder pour l'offrir. Je savais que les laboratoires en recherchaient. Et il n'a pas su me répondre. Il a été incapable de me le dire. Cet if a été brûlé. J'étais navré parce que je pensais qu'au moins ça pouvait servir à quelque chose.
Et ce qu'il y a de paradoxal avec l'if, c'est que l'if est une plante extrêmement toxique. Intégralement, à l'exception d'ailleurs de son petit fruit, mais qui contient une graine qui elle est très toxique, et cet arbre qui peut donner la mort si l'on en abuse,
peut sauver
la vie, donc c'est l'intérêt de l'écorce qui nous révèle, donc vous voyez, beaucoup de surprises.
Alors vous classez, alors évidemment c'est très tactile aussi, vous classez les écorces selon leur forme, les striées, celles qui s'épluchent, etc.
Vous avez des écorces qui toute leur vie restent lisses, d'autres écorces qui se disposent des épines.
Alors celle-ci, là, est
voilà,
extraordinaire.
Comme les acacias, enfin le robinier, pour rester grand public, produit des épines qui ont pour but de décourager les animaux à venir grimper dans le branchage et se nourrir. Vous avez des écorces comme celle du séquoia, qui est filamenteuse, spongieuse, et qui permet à l'arbre de résister au feu. Ce qui explique d'ailleurs qu'aux États-Unis, des forêts de séquoia qui ont plus de 3000 ans ont survécu à tous les gigantesques incendies de forêt. Vous avez des écorces qui se sont assemblées comme un puzzle. Regardez les platanes, d'autres que l'on dit en peau de serpent. Chaque écorce est particulière, mais toutes sont magnifiques.
Et la petite modiste dont je parlais tout à l'heure, quand je vous ai annoncé la dernière fois, m'a dit, mais il y aura peut-être des écorces à me donner pour mes chapeaux. Alors je lui ai dit, écoutez, il y a peut-être des idées à tirer là aussi.
Mais les écorces dans le passé ont servi aux vêtements. Les Indiens d'Amérique du Nord utilisaient l'écorce pas seulement pour faire des canots, d'où le nom d'ailleurs boulot à canot, mais également pour faire des chaussures par exemple. On faisait des gants également avec l'écorce de boulot. Donc les écorces ont vraiment une fonction plus importante qu'on ne pourrait croire.
Il y a quelques années, il y avait eu une très belle exposition sur le palmier au Serre d'Auteuil et il y avait un manteau de pluie exposé et fait en écorce de palmier qui était absolument remarquable.
Et là, je ne veux pas du tout vous contrarier, bien entendu, et je le précise d'ailleurs dans cet ouvrage où le tronc de certains palmiers est photographié, mais les palmiers n'ont pas d'écorce.
Ah non,
ce sont des stipes. Et en fait, un palmier est composé de feuilles mortes qui durcissent.
Et qu'on prend pour de l'écorce.
Voilà. Alors, vulgairement, on peut dire que c'est de l'écorce, mais botaniquement parlant, ce n'est pas une écorce.
Mais enfin, là, il y avait un manteau de pluie superbe qui était exposé là. Alors, évidemment, vous avez une petite partie technique sur les maladies de l'écorce, sur ses parasites, sur ses prédateurs. Et ensuite, ensuite, vous classez, vous avez environ presque 200 arbres, classés par alors les arbres feuillus, les arbustes et les exotiques. Et vous conseillez aux gens qui créent un jardin de choisir leurs arbres en fonction de l'écorce. C'est quand même inattendu. En général, les gens voient la forme, voient le feuillage, voient les fleurs, mais
et on
selon
l'écorce. Tout à fait. Mais je voudrais souhaiter préciser une chose qui me semble importante. Ce livre, je l'ai écrit à partir de mon expérience professionnelle. Donc, c'est 25 ans de métier dans les parcs qui m'ont fait écrire ce livre. Et pour corriger également les contre-vérités que je lis de temps en temps dans un grand nombre d'ouvrages qui sont écrits par des gens souvent talentueux, mais qui fréquentent apparemment peu les jardins. Donc je donne des conseils qui sont, je crois, des conseils judicieux.
Très pratiques en plus, très simples. Très...
Lorsque, par exemple, nous parlons des insectes qui s'attaquent aux arbres,
déjà feuilleté,
je pense au capricorne. Le capricorne est un insecte qui ne va pas nuire au végétal, il s'attaque déjà à un arbre qui est dépérissant. Donc en fait, ce n'est pas le capricorne qui rend le chêne dangereux. Je rappelle également que certains insectes xylophages donc, sont protégés par la loi, comme le grand capricorne du chêne. Et puis je donne également des méthodes de traitement écologique. Un exemple tout bête, les petites araignées rouges qui détruisent nos haies de conifères nichent dans les écorces. Et l'on trouve sur le marché une quantité énorme de produits, alors qu'il suffit avec un tuyau d'arrosage d'arroser copieusement sur le revers des feuilles les araignées rouges pour les faire fuir. C'est peu coûteux, totalement écologique et rapide à faire.
C'est ça. Oui, je vous en prie.
Monsieur Braton, est-ce que le fait de graver un nom et un cœur sur une écorce, c'est mauvais pour l'arbre, ou est-ce que c'est sans vraie gravité? C'est pas plus grave qu'un tatouage?
Alors déjà, l'action est souvent symbolique, et il est vrai que ces vieux hêtres de Versailles, il y en a où l'on voit un cœur avec des initiales, une flèche, il y a une action, je dirais, symbolique et romantique. Et il faudra admettre, même si j'y arrive, c'est extrêmement nocif pour l'arbre, c'est quand même beaucoup plus beau que ces tags qu'aujourd'hui ne veulent absolument plus rien dire. Par contre, toute pénétration dans l'écorce favorise l'arrivée des insectes. Et donc c'est une action extrêmement délicate pour l'arbre qui peut, à moyen terme, compromettre son avenir.
Et c'est la même chose, alors évidemment, quand on plante un clou pour tendre une corde,
Il y a une règle au niveau des arbres qu'il faut savoir. La partie la plus récente de l'arbre est en périphérie. Le centre de l'arbre est la partie la plus ancienne. Ce qui veut dire que l'arbre dispose tout, j'allais dire, son dispositif de vie en périphérie tronc. Tout le dispositif de vie est à quelques millimètres sous l'écorce. Toute agression au niveau de l'écorce provoque un traumatisme au niveau de l'arbre qui peut être absolument fatal. L'orme est un arbre qui a pratiquement disparu aujourd'hui de France, qui est sujet à une maladie, la graphiose. Cette maladie est un champignon qui est transmis par un insecte. Cet insecte, s'il a une voie d'une pénétration dans l'écorce, se développera. C'est exactement comme une peau. Si on vous fait un trou dans la peau et si celle-ci ne cicatrise pas, eh bien, vous avez une infection.
Donc, ne jamais graver, ne jamais clouer, jamais gratigner, jamais...
Ne pas trop serrer.
Observer, caresser.
Ni serrer avec une ficelle ou du fil de fer.
Oui. Non, observer, caresser, regarder l'arbre, prendre le temps de l'observer et ne pas l'agresser. Toute action qui met en cause la santé de l'arbre, voire même saboter, est une agression. Planter un clou, pourquoi faire? De temps en temps, un simple petit scotch.
Comme le linge en général.
Donc l'arbre est un être vivant, il faut s'en souvenir. Le clou va rester, va rouiller. Donc on ne plante absolument rien sur le tronc d'un arbre.
Vous avez une question là, qui vous concerne directement.
Alors, est-il vrai, donc c'est la question que j'ai dit, que la circulation automobile sera interdite dans le parc de Versailles? À ma connaissance, il n'est pas prévu une restriction de la circulation automobile qui a déjà eu lieu longtemps. Aujourd'hui, les voitures ont accès au Grand Trianon, au Petit Trianon et à ce que l'on appellera la zone très fréquentée de la Petite Venise. Donc, il n'y a pas de nouvelle interdiction prévue pour les voitures.
Alors, une autre question. Au sujet de l'acacia robinier, quelle est sa longévité et est-il exact qu'il soulagerait les migraines?
Il faut distinguer la légende et la réalité. Déjà, l'acacia sous quelle forme? Est-ce que c'est... Parce que ce n'était pas précisé.
Oui, donc effectivement,
à ma connaissance, je n'ai pas connaissance de qualité pour ce végétal. Pour ce qui est de sa longévité, les acacias peuvent vivre longtemps. Nous en avons à Versailles qui ont été plantés sous Napoléon. Donc vous voyez qu'ils peuvent atteindre 200 ans. Mais il faut préciser que le véritable nom de l'acacia est en fait le robinier. parce que les botaniques sont souvent des gens compliqués. Donc le robinier est en fait ce que nous appelons gentiment l'acacia, et l'acacia c'est le mimosa. Voilà. Oui. Donc quand on parle d'un acacia, on parle d'un mimosa.
Oui, parce qu'on va reparler de ça, ce problème de botanique. Mmh. Alors un auditeur nous signale que la Vierge qui est apparue au Mexique est imprimée sur un manteau d'écorce, c'est vrai. L'Indien avait un manteau d'écorce.
Elle a un manteau d'écorce, absolument.
Voilà. Et l'arbre a toujours...
Non, c'est pas ça. Le tablier sur lequel apparaît l'image de la Vierge est un tablier en écorce.
C'est une espèce de roi nain, non?
Non, c'est le tablier du jeune...
Je pensais que c'était une Ruana.
Du pastoureau, qui portait une espèce de tenue. D'accord. Comme ça. Et sur cette tenue, c'est imprimé l'image de la Sainte Vierge. Ça, c'est il faut lire le formidable livre.
Vous avez eu un invité qui est venu en parler ici.
Le Père Brune qui a écrit l'histoire de cette relique tout à fait extraordinaire, puisque je ne sais pas si M. Baraton, si vous connaissez ça, ça peut vous amuser, parce qu'il s'agit d'écorce, en fond. Donc c'est un tablier qui était porté par un pastoureau au Mexique au 15e siècle. Et il a dit qu'il avait vu la Sainte Vierge, qu'elle lui avait demandé de construire un lieu de culte. Et,
de type catholique.
De type catholique, oui, merci de préciser. Et sur le tablier de ce petit bonhomme est apparue l'image de la Vierge qui était, elle, apparue à ses yeux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a fait des tas d'examens sur les pigments, et on ne comprend pas, ça correspond à rien. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette image est apparue au 14e siècle, fin du 14e, début 15e, je ne sais plus exactement. Et récemment, on a fait des études extrêmement poussées de cette image, et on s'est aperçu que dans l'œil de la Sainte Vierge, qui est peint, qui apparaît sur le tablier, on voit le personnage qu'elle regarde, c'est-à-dire on voit le pastoureau qui portait le tablier, donc, ce qui est quand même assez étonnant. Et la façon dont cette image s'est imprimée dans la rétine de la Vierge est parfaitement vérifiée par les connaissances actuelles qu'on a en optique, et qui étaient des connaissances qu'on n'avait pas à l'époque. Donc à supposer que quelqu'un ait peint cette écorce pour faire croire que c'était une image miraculeuse, il n'aurait pas pu la peindre avec cette précision du détail qui fait que ça correspond aux dernières découvertes en matière d'optique. C'est un grand, grand, grand mystère, ce tablier de la Vierge de la Guadeloupe, et ça pourrait rentrer dans vos centres d'intérêt, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'écorce qui d'ailleurs est totalement imputrescible. Celui-là, pas les autres qui datent de la même époque, on ne les trouve pas parce qu'ils ont pourri, ils sont tombés en poussière, et celui-là est absolument impeccable. Autre mystère.
Mais les écorces ont beaucoup de mystères, mais les arbres ont toujours été très représentés dans la religion, déjà de par le symbole même, l'arbre qui part du sol pour s'élever vers le ciel, les chênes, les vieux chênes, plus que centenaires qui sont transformés en église, la couronne d'épines du Christ, tout est lié au végétal. Le végétal a une grande part dans la religion.
Il y a une question,
oui, Cécilia, je vous montre mon doigt parce que je brûle de le mettre entre l'arbre et l'écorce et de poser la question qui fâche. C'est un peu mon rôle ici, au patron des parcs et jardins de Versailles. Je crois savoir, et je voudrais que vous le confirmiez, que à la suite des très lourds dégâts subis par le parc de Versailles pendant les deux dernières tempêtes, j'hésite à les dater, 92, je crois.
90 et 99.
Voilà. Votre parc, votre institution a reçu des dons en dollars considérables de personnes privées, d'Américains amoureux de ce parc de Versailles, ce qui, alors ça me paraît d'actualité, d'inférer qu'ils ne sont peut-être pas si sauvages et si méchants que ça, au moins pour certains d'entre eux.
Les jardiniers ont toujours eu beaucoup de recul sur les événements qui nous entourent. Les jardiniers travaillent avec beaucoup de sagesse. Nous travaillons sur le long terme, nous travaillons avec la terre, nous écoutons bien entendu et nous vivons avec notre environnement. La seule chose que je sais, c'est que les Américains que nous voyons à Versailles, qui se promènent à Versailles, entretiennent avec nous, jardiniers, avec Versailles, d'excellentes et de remarquables relations. Samedi prochain, je reçois une association qui s'appelle American Grove, qui a pleinement participé justement à la replantation du domaine, et je n'ai pas, moi, l'impression qu'il y a fâcherie entre les Américains et les Français. Je n'en ai pas du tout l'impression.
Mais il n'y a pas de fâcherie, je ne crois pas qu'il y ait de fâcherie entre les peuples, il y a simplement un peu une incompréhension là, sur la question de l'Irak. Mais c'est pour ça que quand je reçois des messages, on me dit assez d'anti-américanisme. Mais quand me disent ça, moi, je trouve ça renversant quand même. Je n'ai jamais été anti-américain. Je constate simplement que ça ne me plaît pas ce qui se passe en ce moment, mais ce n'est pas les Américains, c'est un système politique.
Il y a quand même une histoire d'amour entre les Américains et Versailles. Ne serait-ce que M. Van der Kamp qui avait épousé une Américaine qui s'est dévouée pour le château comme il n'est pas permis. Voilà. Et quand on voit les plaques des noms des donateurs, il y a beaucoup de gens des États-Unis.
Quand on a reçu il y a 2 ans les Cincinnati à la galerie des batailles, ça a été extraordinaire.
Il y a un homme dont on parle trop peu, je trouve, dans la restauration de Versailles, c'est Rockefeller. Il faut avoir conscience que Rockefeller, dans les années 1920, a, par ses gigantesques dons, permis la restauration des bassins, des fontaines, du hameau de la Reine, de la toiture, du Grand Canal et j'en passe. C'est donc un homme qui a consacré une fortune personnelle gigantesque pour la restauration de Versailles. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut quand même se souvenir que l'un des grands militaires qui a permis aux États-Unis d'obtenir leur indépendance, l'indépendance américaine signée à Versailles, était le général Lafayette. Donc la construction même des États-Unis est liée à Versailles. C'est la raison pour laquelle je crois que les Américains sont très attachés Et vous savez, l'avantage également qu'il y a entre les hommes et les conflits, les animaux et les conflits, les végétaux, c'est que les végétaux sont rarement en conflit. Lorsqu'un végétal est planté à côté d'un arbre qui lui fait de l'ombre, il disparaît tout seul. Il n'y a pas de conflit et aucun autre ne reviendra.
Il y a quand même des arbres qui émettent des essences nocives. On dit par exemple que je dis peut-être une énorme bêtise, mais on dit que les épineux, les conifères, quand les aiguilles tombent, elles stérilisent complètement le terrain qui se trouve au-dessous, c'est vrai ou pas?
Non, c'est beaucoup plus complexe. Effectivement, il y a dans les feuilles ce que l'on appelle une acidité, un potent, un pH. Et la chute des feuilles, effectivement, produit une sorte de compost qui variera en fonction de l'essence. Les arbres, par exemple, la feuille caduque, font ce qu'on appelle un terreau, alors que les plantes de type conifère feraient davantage, une plante de terre de bruyère. Mais c'est pas aussi simple. Il faut savoir qu'un arbre à feuilles caduques, comme son nom l'indique, perd ses feuilles en hiver. Ce qui veut dire que le sol est en permanence en hiver éclairé du soleil, contrairement aux forêts de conifères qui elles restent dans l'ombre souvent. Donc la réaction chimique est beaucoup plus complexe que cela. Il faut plus d'un siècle pour faire 3 cm de compost. Donc vous voyez, avant de transformer l'habitat d'un arbre qui plonge ses racines à plusieurs mètres de profondeur. Non, par contre, on découvre de plus en plus des comportements extraordinaires des végétaux et l'on pense de plus en plus que les végétaux communiquent entre eux. Je vous citerai un exemple classique dans les savanes africaines, par exemple. Eh bien, vous avez des girafes qui viennent s'alimenter des feuilles. Si elles s'attaquent trop à l'arbre, l'arbre va disparaître. Nous sommes dans un milieu hostile, il ne repoussera pas rapidement. L'arbre va donc dégager une substance qui rendra immédiatement les feuilles toxiques à la consommation. La girafe donc cesse de consommer, mais le message est transmis à tous les arbres avoisinants, ce qui oblige la girafe à partir beaucoup plus loin et à sauver les bocteaux. Et les substances éventuellement dégagées ne sont pas liées au sens du vent. On n'a pas encore trouvé aujourd'hui le mécanisme.
La communication ne passe pas par le vent.
Vous prenez un autre exemple beaucoup plus proche de nous, la tomate, la brave tomate que nous mettons dans les jardins. Lorsque la tomate est attaquée par exemple par un insecte, elle réagit, elle produit des substances. Eh bien, le pied de tomate à côté, qui lui n'a pas été attaqué par cet insecte, produira les mêmes substances. Donc vous voyez qu'on est encore loin. Alors c'est par contre, de temps en temps, je dis ça avec un peu d'humour, ça me fait faire des cauchemars. Parce que moi qui orchestre la tonte de milliers d'hectares tous les ans, j'imagine maintenant les brins d'herbe hurlants
qui vont vous attaquer.
En nous voyant arriver avec nos tondeuses, donc il m'arrive d'être un peu inquiet.
Mais ça dépend, peut-être qu'ils trouvent ça très bien les brins d'herbe, parce que nous quand on nous coupe les cheveux, c'est pas désagréable. Regardez, le marquis, il est passé à la tondeuse, il ne s'en plaint pas.
Oui, mais nous on coupe quand même très court, vous voyez.
Là, son coiffeur aussi.
C'est exact aussi, c'était la Turquie.
Il y a un côté chéri bibi là, qui est impressionnant. Oui, pardon, je rends la parole à
Mais vous avez une ou deux questions.
Une question, je l'ai dit. Que pensez-vous des arbres taillés tous les ans et sans cicatrisation des blessures? Il faut savoir qu'il y a dans ce milieu, malheureusement, beaucoup de charcutiers. Et effectivement, je dis de charcutiers. L'amateur est la personne qui agit sans connaître. C'est le particulier, c'est pas dans le but de mal faire, c'est parce qu'il ne connaît pas, il ne maîtrise pas la technique. Et vous avez par contre des gens qui sont rémunérés pour faire des travaux qui sont absolument scandaleux.
Sur les platanes parisiens, par exemple, moi, ça me choque ma vue, mais je me dis que j'y connais rien, de les voir réduits à 3 moignons comme oui. ça, tous les 2 ou 3 ans, j'ai tort de m'indigner.
Oui, parce que vous avez des grandes villes, je dis pas ça pour, je n'ai aucune affinité personnelle avec la mairie de Paris, mais ce sont des gens généralement qui connaissent très bien leur métier, ce sont des passages qui sont fréquentés par des voitures, des piétons. Vous avez également les notions de sécurité dont il faut tenir compte. Il peut y avoir des attaques parasitaires, il peut y avoir la régénération de tout un ensemble. C'est beaucoup plus complexe. Non, je fais allusion à ces petites villes de province où l'on massacre des tilleuls sur la place publique. Oh. Ça ne veut rien dire.
J'ai vu ça l'autre jour, un village qui avait une place magnifique, mais vraiment une splendeur. Le village où est Collard, ça s'appelle Châtillon-Coligny. Collard, c'est le guérisseur en Étalé-le-Loire. Et il avait à côté pas très loin de sa maison, une magnifique place ombragée de platanes, je crois, qui ont été rasés, oui. mais rasés, alors rasés, tu es rasé, c'est-à-dire vraiment pire que le marquis.
Mais il faut quand même préciser que l'immense majorité des gens sont rasés. Il faut quand même rappeler que l'immense majorité des entreprises de parcs et jardins, je dis bien l'immense majorité, sont pilotées par des gens consciencieux qui justement maintenant luttent contre ce type d'exagération. Mais sans vouloir revenir forcément à mon ouvrage sur les écorces, je dénonce également certaines pratiques. Je parle par exemple, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, je parle des oliviers. Aujourd'hui, il y a une mode qui consiste à arracher des oliviers sans faire et à les vendre. Et je dis dans cet ouvrage que le commerce en France de ces oliviers favorise le pillage des réserves naturelles et je rajoute également déshonore ceux qui en font commerce. Oui. Imaginez-vous un instant qu'en France, on aille dans nos grandes forêts arracher des chênes qui ont 400 ans pour aller les vendre en Grande-Bretagne, en Italie.
Ça
serait absolument inqualifiable. Et aujourd'hui, voir des gens qui en Bretagne se mettent des oliviers tricentenaires qui vont mourir. Ils vivent sur leur réserve. C'est absolument scandaleux. Et je suis surpris de voir qu'aujourd'hui, eh bien en France et dans le monde, on fait pratiquement rien pour protéger l'arbre comme il devrait l'être.
Il faut instaurer des gardiens d'olivier. C'était mon rêve, jadis, d'être gardien d'olivier.
Il faut protéger l'arbre.
Il en faut. Alors, donc nous rappelons le titre, Le monde des écorces d'Alain Baratan. Aux éditions du Rouergue, il vaut 22,50€.
Il vaut 22,50€. Voilà. Il est préfacé par Jean-Pierre Coff.
Il est présenté par
Jean-Pierre Coff.
Et préfacé.
Et il comporte, je viens de le feuilleter, c'est la qualité des photographies est vraiment admirable. Elles sont signées de Christophe Madamour et également d'un imprimeur qui fait son travail.
Ah bah, les éditions du Rouergue, j'ai un autre très beau livre à présenter bientôt sur le papier végétal. Et c'est très très beau.
C'est un livre agréable parce qu'il est édité. Il est joliment relié, il est souple, maniable. On peut l'emporter en forêt. C'est pas un livre de poche, il est d'un format un peu plus grand. On peut l'avoir.
Si vous donniez le numéro d'ISBN, Serge, je vous ai mis à le faire.
L'ISBN, c'est vrai.
Pour les auditeurs à qui leur libraire va dire un, quoi, je sais pas ce que c'est, ils vont lui répondre si, numéro d'ISBN.
ISBN 2 841 546 312. Non, pardon, 564-312. Je commence à dire des bêtises.
Encore une roquette sur votre propre hélicoptère.
2 841 564 312.
Et dans 6 mois, vous revenez nous voir avec une nouveauté.
Je suis en train d'écrire donc un nouveau livre.
Ça sera un peu différent, mais...
Oui, on s'en est quand même dans la botanique. C'est l'histoire de la botanique des arbres de Versailles, en racontant également quelques petites anecdotes un peu plus coquines, parce qu'ils ont vu tellement de choses. C'est une co-signature.
Tous les bosquets, j'ai vu.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est une co-signature avec Jean-Pierre Coff.
Et alors, en attendant, vous serez notre invité. On a la date de la fête du livre cette année, pas encore.
Non, pas encore.
Dimanche de mai.
Elle n'est pas fixée. Franck me fait des signes que pas.
Vous me donnez 5 minutes pour 3 très beaux livres.
Oui, bien sûr. Et si vous me laissez les livres en partant, ça va.
Ça m'étonnerait.
Moi aussi, tiens.
Ça s'appelle Flora, une histoire illustrée des fleurs de jardin de Brent Elliott. Et il a puisé dans les archives de la Société Royale d'Horticulture d'Angleterre, qui pendant près de 4 siècles et demi a envoyé des chercheurs à travers le monde, à travers toutes les parties du monde, pour rapporter des plantes qui ont été acclimatées dans nos jardins qui qu'on croit maintenant de chez nous, et elles ont été peintes et illustrées par les grands artistes de l'époque.
Ça, c'est le livre qui vous rend voleur.
La table des illustrations.
Un très grand format.
Alors, je vais apporter aujourd'hui parce que je suis en voiture et il pèse 5 kilos.
Paru chez
quand je viens par le train, je ne le prends pas.
C'est splendide.
Alors, il est publié par Delachaux et Niesclé. Il vaut 52 ou 57 euros. 52 euros.
C'est encore plus.
Non, il est splendide. Il est magnifique. C'est à feuilleter, à refeuilleter. De façon inépuisable. Et alors, quelque chose de plus amusant, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, Fleur Zen. Ça n'est pas un cours d'ikebana. C'est beaucoup moins contraignant. C'est une japonaise qui fait des compositions avec des fleurs, très peu de fleurs, ce qui est précieux en France parce qu'elles valent très cher, bien que maintenant on entre dans la bonne saison. Et elle illustre l'élégance, la sérénité. Et je pense qu'avec très peu de choses, on peut faire très jolies choses.
Moi, j'aime pas trop ça, parce que je trouve qu'où il y a du zen, il n'y a pas de plaisir.
Non, regarde. Regardez.
Je pourrais pas le manquer.
Ça n'est pas à copier, mais on peut quand même s'en inspirer avec très peu de choses.
Non, c'est très joli.
Et ça donne toute sa valeur à une fleur.
C'est très japonais.
Et c'est beaucoup moins contraignant que les règles de l'ikebana avec lesquelles dans lesquelles j'ai jamais réussi à me couler réellement. J'ai des amis qui s'y font très bien.
Quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de penser à ce scandale qui avait secoué le musée de Beaubourg, où il y avait je ne sais quel artiste contemporain qui avait exposé une œuvre. Et les gars, quand ils ont déménagé l'exposition, ils ont foutu l'œuvre à la poubelle. Elle avait été estimée à 5 millions de francs, ou encore, je me trompe peut-être, en disant qu'est-ce que c'est que ce tas de carton pourri.
Il est publié chez Aubanel, et l'auteur s'appelle Harumi Nishi.
Non, mais je dis ça parce que certaines compositions florales font penser à. Vous savez, quand vous avez fini de couper les branches mortes. Vous les posez quelque part dans le fond du jardin, ça fait ça.
Et alors, j'ai encore deux messages, on va aller en prendre connaissance après. J'ai encore une petite chose, là je vais faire une sorte de BA. C'est un livre absolument ravissant. Il s'intitule « Herbe folle, beauté des graminées sauvages » par Pierre Idiard. C'est un jeune informaticien qui est tombé amoureux des graminées et parce qu'une de ses amies les lui a nommées dans la nature, il a trouvé ça tellement poétique qu'il s'est mis à les rechercher, à les photographier. Alors il les présente en général en double page. Au centre, il y a un papier calque avec un poème ou une citation. Alors il y a un petit problème, il devait venir le présenter et il était enchanté, très content et tout. Et puis ses petits copains, entre guillemets, de la défense des 10 sans papiers, lui ont interdit de venir parler à Radio Courtoisie. Alors, comme le livre est tellement, tellement beau que lui était prêt à venir quand même, j'en parle quand même, il est chez Flammarion et il coûte, il est pas très cher, et regardez-le, il est ravissant. Ouais. Et alors, je crois qu'il prépare, Monsieur Baraton le connaît, il prépare une exposition que vous soyez prêts à accueillir.
J'ai rencontré effectivement ce jeune homme qui est un garçon brillant.
Ah, puis charmant, au téléphone.
Un ouvrage absolument magnifique.
Oui, il n'est pas pu venir.
Et nous envisageons peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir de pouvoir exposer de temps en temps des photographies ayant pour thème la botanique. Et ce livre, les photos de ce livre, s'inscrivent parfaitement dans nos objectifs parce que les photos sont très belles, le sujet est original, les textes d'accompagnement, les images sont courtes. C'est vraiment
admirable. Et alors, il est 10 heures là-dessus, il pouvait parler des heures, il était très gêné parce qu'il se faisait une joie de venir en parler. Et bon,
c'est pas de sa faute s'il est de gauche, voilà. Mais salut. Passera avant que ça nous reprenne.
Je le souhaite, mais enfin bon, c'est dommage. Alors j'avais dit que je n'en parlerais pas,
parce
que je ne parle pas des livres dont les auteurs refusent de venir, mais là c'est ma BA. Hein, c'est...
Il y a un très joli poème, c'est un proverbe chinois qui dit « Chaque brin d'herbe a sa part de rosée ». Et c'est imprimé sur une feuille de papier calque,
c'est beau,
au
c'est
milieu, de, enfin, donc inséré dans une photo qui montre des herbes couvertes de rosée, on dirait des joyaux, hein, on dirait vraiment des bracelets.
Au Cap Sunion, il y a un très beau temple dédié à Poséidon, mais moi je me souviens surtout d'une avoine folle qui était balancée par le vent. C'est le souvenir le plus vivace que j'ai de cet endroit-là. C'est un petit peu scandaleux, mais c'est comme ça.
Mais l'avantage, c'est que vous pouvez retrouver, pour voir le temple de Poséidon, voilà. Vous pouvez y retourner quand vous voulez, tandis que l'avoine folle, il faut la saisir.
L'avoine n'est plus là.
J'ai pas entendu les références de ce livre admirable.
Flammarion, ça s'appelle Herbe folle.
et Herbe folle de Pierre Idiard, et j'ai, je ne sais plus le prix, c'est dans les 20 euros, c'est pas très cher. Alors, comment expliquez-vous la dégradation des jardins et parcs de Paris? Ben ça, c'est le problème.
Ben, il faudra inviter, je pense, un jardinier chef des jardins de Paris, parce que...
À Versailles, tout va bien.
Non, mais il y a un tel engouement aujourd'hui pour les parcs et les jardins qu'effectivement, la fréquentation excessive nuit bien évidemment à l'ensemble.
Ouais. Je dis, c'est pas vrai que, enfin, c'est pas toujours vrai qu'ils se dégradent, parce que je vois, par exemple, celui qui a été installé à côté de la gare de l'Est, là, sur l'ancien couvent des Récollets, il est très très beau, il est en travaux, mais on sent que ça va devenir quelque chose d'exceptionnel. Donc,
un
joli travail qui est fait par les jardiniers.
À Versailles, qui est
un dernier mot, c'est celui-là.
Alors, redites le nom de l'auteur du livre et le numéro de téléphone des éditions du Rouergue. Alors, donc,
Tenez, pour changer un peu de voix. Donnez-nous les coordonnées, mon cher Patrick.
Jean-Pierre Coff présente et préface Le Monde des Écorces par Alain Baraton aux excellentes, je le dis au passage, remarquables maisons que les éditions du Rouergue. Je suis pas sûr qu'elles soient de droite, mais moi je m'en fiche. Ça me dérange pas.
Tout le monde.
Photographie de Christophe Madamour. 22,50 €, numéro d'ISBN, prenez-le si vraiment ce livre vous intéresse et que votre libraire est grincheux et qu'il n'est pas toujours au courant de tout. 2 841 56 431 2.
Alors, merci à Alain Baraton.
Merci
et
vous
reviendrez bientôt.
Et puis continuez à nous faire un parc admirable, parce que vraiment Versailles, c'est quelque chose de...
Je leur donne rendez-vous le 30 avril.
Rendez-vous au 30 avril. Merci Cécilia. Merci Monsieur Baraton.
Merci à vous.
Est-ce qu'on a droit à un tout petit bout de musique? Avec une logique absolument imperturbable, nous revenons en Irak au son d'un tango, parce que la raison en est très claire, c'est que le tango n'utilise pas le quart de ton. Et donc, M. Jean-Claude Chabrier, qui est un ennemi personnel du quart de ton, accepte le tango. Mais pas
les orgues de Saddam.
Attention, si je suis un ennemi du quart de ton, c'est parce que je suis pour Pythagore, ce qui est beaucoup plus fin que le quart de ton.
Et en plus, vous ne risquez rien, parce que vraiment, il n'y a plus de contestation. Maintenant, c'est à peu près installé. Est-ce qu'on risque d'avoir des ennuis avec les problèmes de défense de la dignité de l'être humain?
Ne dites pas que vous avez perdu le
quart de ton. Non, oui, parce que si vous avez un auditeur qui connaît mal la musique, il va dire, le quart de ton, c'est arabe. Hop. En fait, le quart de ton n'est pas arabe. Ce sont les Arabes qui ont adopté le quart de ton pour imiter les Européens.
Bon, ça va. Donc, c'est pas parce que c'est arabe que vous n'aimez pas le quart de ton, puisque ce n'est pas arabe. Donc,
ah, monsieur, je ne me permettrai pas.
C'est bien.
Je dois aimer la salade russe, etc.
Mais il faut
sinon, on est raciste.
Autrement, oui, absolument. Alors, revenons donc à l'Irak, vu pas à travers vos yeux. Alors, je disais, on a visité un peu, vous nous avez fait descendre des montagnes du nord jusqu'au Chott el Arab en passant par le Piémont et les plaines immenses du centre, mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu des gens. Vous nous avez dit, vous aviez commencé à le faire en nous disant le côté un peu romantique, exalté, presque trop chaleureux des Irakiens.
Mais cette exaltation donne de bons peintres, de bons sculpteurs et de bons architectes. Ça, c'est le côté, la névrose du climat, si j'ose dire ça, la névrose, parce qu'il y a des gens qui vont dire, quoi, vous parlez de névrose. Le climat irakien est quand même très névrosant, mais cette névrose est en général féconde, elle est créatrice.
Alors, puisque vous parlez d'architecte, est-ce que vous pouvez nous décrire Bagdad ?
Oui, alors Bagdad, vous avez deux aspects. Aspect habitation, c'est une ville pavillonnaire, c'est-à-dire tous les Irakiens de la classe moyenne veulent avoir leur maison en banlieue. C'est donc une ville très large. C'est plat, mais c'est très grand, puisque un habitat pavillonnaire, disons que ce sont des familles, on va dire, de 4-5 enfants, mais pas toujours. Les Irakiens du parti basse n'en ont que 2 ou 3. Mais donc, une maison, ses annexes, son petit jardinet, etc., ça fait une ville extrêmement grande. Mais on va tomber, évidemment, chez des gens moins riches. Alors, les classes, on va dire, parce que la France d'en bas, donc l'Irak d'en bas, vous avez quand même de l'habitat. Mais façon HLM, ça correspond pas très bien à l'Irak. Je vois des HLM, enfin des tours dans tout le monde entier. J'en vois en Turquie, Antalya, c'est une ville de gratte-ciel, mais en Irak, pas beaucoup. Je crois que quand ils habitent, alors, dans des quartiers denses et pas riches, ils restent dans des maisons peu élevées. Si vous prenez les alentours de la rue Saadoun ou, comment s'appelait, Abou Nouas, le poète pédophile.
Non, c'est très très mal. Ça, c'est bien clair.
Je ne sais pas. Mais les quartiers pauvres sont denses. D'ailleurs, en général, dans le monde, les quartiers pauvres sont denses. Mais il n'y a pas cette espèce de conception de la cité comme il y a autour de Paris, je sais pas quoi, la cité machin,
oui, la cité machin.
On ne peut pas donner un nom parce que sinon, on va tout de suite dire je suis bon pour le procès.
Et comment est la rue ? Parce que moi, il y a une chose qui m'a frappé quand on voit à la télévision les images de la rue, des rues de Bagdad. D'abord, je pense, le peuple qui est effectivement écrasé depuis des années par une dictature épouvantable, qui vit dans la misère, etc. J'ai pas remarqué qu'il avait l'air particulièrement accablé. Je trouve que si on compare les images qu'on voit aujourd'hui de Bagdad avec les images qu'on voyait il y a 20 ans de Moscou, l'avantage est plutôt à Bagdad. Hein, ils sont plutôt, il y a une question de climat, encore une fois, mais enfin, ils sont plutôt plus souriants, mieux habillés.
Ou avec le nord-ouest de Washington.
Oui, là, c'est autre chose. Là, c'est une question chromatique. Et donc, comment est la rue ?
Sale.
Oui.
Pardon de dire ça,
comme à Paris,
mes amis
moins
irakiens, s'il y en a qui m'entendent parler, vont dire, ah, il nous trahit. Non. Passer une certaine ligne que je ne peux pas définir, sinon nous allons avoir un procès, on jette tout par terre dans la rue. Même si l'habitation est propre, la rue est faite pour qu'on jette. Et vous remarquerez qu'en France, avec les joies de
la chance,
multiculture, on jette de plus en plus de choses par terre. Mmh. Et dans mon enfance, ça ne se faisait pas. Quelle que fût la classe sociale, on interdisait aux enfants et aux adolescents de jeter. Je prends des pays qui ont été d'une propreté méticuleuse, les trottoirs suisses, par exemple. Mmh. Jusqu'à il y a peu de temps, c'était un bijou. C'était net. Alors, il est vrai que la rue bagdadienne n'est pas nette. Le trottoir bagdadien n'est pas net. Il s'y ajoute que le climat... Vous avez des vents de sable. Heureusement, j'espère que le dernier vent de sable aura mis beaucoup de véhicules américains en panne et aura provoqué beaucoup de rhinopharyngite chez nos chers protestants, méthodistes et presbytériens réunis, finalement. Bush et Tony, c'est le presbytérien et le méthodiste. Oh, ça peut faire bon ménage, je connais. L'armée du salut, c'est une dérive des méthodistes, non ?
Oui, ils sont plutôt sympathiques, l'armée du salut.
Je ne crois pas que l'armée du salut soit beaucoup impliquée dans cette guerre, peut-être la fête humanitaire.
Peut-être qu'il y a des gens de l'armée du salut.
Le professeur doit le savoir, lui, si Bush a été exclu de son église ou non. On s'est posé la question il y a 15 jours, on a fait un article, non, Bush n'est pas chrétien, signé par Bernard Anthony, et on a fait des recherches pour vérifier ce bruit que j'avais entendu, qu'il avait été exclu de son église. Vous êtes au courant ?
Ah, ce que m'a dit celui de ma famille qui a trahi, puisqu'il est américain, après avoir fait Polytechnique. C'est dommage, quand on fait Polytechnique, il faut rester en France. Mais cela étant, il m'a dit, en fait, le bellicisme américain est alimenté par des sectes protestantes qui voit dans l'État d'Israël quelque chose de messianique et qui pense faire enfin la croisade protestante. Parce qu'il est vrai que dans l'histoire, il y a beaucoup de croisades, des bonnes et des mauvaises, enfin, des mieux réussies et des moins bien réussies, mais les protestants n'avaient pas de croisade. Il leur en faut une. Ils la font. Mais sans ça, a-t-il été exclu? J'en sais rien, parce qu'il y a tellement de petites sectes américaines du type protestant qui aiment cette guerre et qui adorent l'État d'Israël, qui adorent la répression dans les territoires palestiniens, que je vois pas pourquoi on aurait exclu Bush, qui fait une croisade protestante. On parlera de lui.
C'est peut-être pas pour ça qu'on l'avait exclu. Enfin, en tout cas, c'est bon.
Ah, il paraît qu'il buvait.
Ouais, beaucoup.
On peut difficilement le reprocher.
Oui. Ce serait bien s'il recommençait.
Ça serait assez malvenu de lui en faire le reproche. N'est-ce pas, mon cher Marquis?
Oui, je voulais juste dire une chose à propos de l'armée du salut. La dernière bataille connue de l'armée du salut, et depuis on en parle beaucoup moins, c'était contre la pièce R, au théâtre de la porte Saint-Martin. Et depuis, l'armée du salut s'est beaucoup calmée. D'autant que cet hiver, quand ils sont à la gare Saint-Lazare l'hiver et qu'ils donnent à manger
la marmite,
au SDF, la marmite, il y a une maison concurrente que vous connaissez bien qui fait la même chose mais qui donne du pinard. Alors ça enlève des clients à l'armée du salut.
Ah, ça c'est
alors revenons aux rues de Bagdad. En dehors de leur caractère méridional, disons.
Oui, les trottoirs sont larges, mais ça dépend. Vous savez qu'à Bagdad, c'est fait de tas de choses. Vous avez le quartier des banques. D'abord, une chose prédomine à Bagdad, un peu moins qu'au Koweït, mais quand même, l'été est horriblement chaud. Donc l'ombre est un bienfait. Et pendant un certain temps, les femmes européennes voulaient revenir de vacances bronzées. Pour moi, qui à partir de l'adolescence me suis trouvé dans des pays archi-ensoleillés, pour moi, le bronzage, c'est pathologique. Quand on est pauvre et qu'on n'a pas pu trouver l'ombre, on est bronzé. Et vous remarquerez que les gens nantis dans tous ces pays-là ont la peau pâle. C'est pas bien d'être bronzé. Alors, les trottoirs sont
c'est la même chose en France jusqu'à une date relativement récente, jusqu'aux années 50.
Oui,
c'est ouvriers agricoles.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la Rachid Street, c'est la grande invention. Comment s'appelait ce Midat Pacha? Voilà, c'était un gouverneur ottoman, sans doute de la fin du 19e siècle. Il a voulu faire la rue de Rivoli. Et c'est pas bête, parce que faire des arcades dans un pays très ensoleillé et très chaud, sous les arcades, il fait quand même moins chaud. Alors, grosso modo, tout l'habitat bagdadien, dans les quartiers modernes, on fait souvent des encorbellements. Avec du béton, c'est très facile. Donc, le trottoir est large. Et puis, l'ombre du premier étage vous permet, à l'heure de chaleur, de circuler à l'ombre. Mais c'est tellement varié, Bagdad, parce que quand moi, je marche beaucoup dans Bagdad. Quand je parle de l'hôtel qui s'appelle Sheraton, et il a un autre nom, je vais à pied, je longe le Tigre. L'ennui du Tigre, c'est que l'été, il y a beaucoup de mouches, car il y a des espèces de buissons. Et vous avez dû entendre sur les postes de radio récemment, moi j'ai pas la télévision, Dieu merci, mais comme ça, j'essaie de garder ma cervelle avec les faits que j'ai vus, et non pas avec ceux que les autres ont vus. Mais il a poussé des espèces de buissons le long du Tigre, et l'été venu, il y a des chiens errants, et il y a des mouches. Alors, comme il y a des grillages, les chiens errants restent dans leur bouche, d'ailleurs. Vous savez, c'est comme ça qu'on disait dans cette abbaye. Le bouche est un espèce de truc inextricable, alors sale, d'où sortent des mouches. Donc, nous y sommes. Et donc, j'aime bien marcher dans Bagdad, mais il faut quand même chercher un peu d'ombre. C'est-à-dire, il vaut mieux pas partir 5 heures de suite au soleil dans Bagdad. Si vous longez le Tigre, moi j'aime beaucoup longer le Tigre, mais c'est personnel, parce que j'y vais depuis longtemps. J'ai connu Bagdad en 1960, à l'époque d'un autre chef d'État, Abdelkarim Qassem, qui était l'homme qui est sorti de cette révolution de 58 qui a été très sanguinaire. Ils sont allés au palais royal avec des mitrailleuses, il y avait la danseuse du ventre libanaise, il y avait je sais pas quoi, le cousin, tout ça, alignez-vous contre le mur et ta 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 ta. Il y avait le jeune roi d'Irak Faisal, sa fiancée n'y était pas, ce qui l'a permis après de se marier autre part. Mais c'est vrai que la révolution de 58 a été sanguinaire, et là je mettrais ça un peu au compte de l'exaltation climatique. C'est-à-dire c'est un pays où le climat rend légèrement exalté.
Alors, dans ce pays où vous le dites, le climat a une énorme importance à tout point de vue, il y a autre chose qu'on nous présente comme capitale en ce moment, c'est la dictature de Saddam, qui qui, nous expliquons, est le plus horrible dictateur que la Terre ait connu depuis fort longtemps. J'ai appris depuis hier, c'est nouveau, ça vient de sortir, qu'il est un grand admirateur de Staline. Moi, il y a quelques années, on nous disait Saddam Hitler. Maintenant, on nous explique sur toutes les radios qu'il est un grand admirateur de Staline, dont il a lu toutes les œuvres. Ça n'a pas dû lui compliquer beaucoup l'existence, parce que, en dehors du fameux bouquin sur la sémantique qu'il a fait écrire...
Vous oubliez les principes du léninisme.
Les principes du léninisme.
Et que Staline était un génie de la linguistique.
Oui, la linguistique, voilà, pas la sémantique, la linguistique. Donc, en dehors de celui-là, que j'ai lu, d'ailleurs, c'est pas le meilleur moment que j'ai passé dans ma vie, mais je me suis forcé à le lire. C'est d'ailleurs hautement comique. Et donc, c'est un admirateur de Staline. Voilà, maintenant on le sait, d'accord, merci, c'est tout ça. Mais, est-ce que vous avez eu l'impression, vous, quand vous étiez... Vous y allez tous les ans depuis 45 ans, vous nous avez dit.
Oui.
Donc, vous avez vraiment une expérience de du peuple
irakien. Oui, puis je vois l'évolution, il va partout. J'arrive chaque année à faire un circuit différent.
Je vous poserai la question, mon père, après, parce que vous avez connu aussi l'Irak, mais est-ce que vous, monsieur Chabrier, vous avez eu l'impression que c'est un peuple qui est accablé par une dictature terrifiante?
Est-ce que vous connaissez beaucoup de pays du tiers-monde dans lesquels le chef de l'État ne soit pas abusif, entouré d'une police abusive, avec un peuple qui craint le régime et sa police? Est-ce que vous connaissez beaucoup de pays du tiers-monde, ou même de l'ensemble arabo-islamique, où ils fassent tellement... Est-ce que vous connaissez, par exemple, des pays du Maghreb où le président fait ami-ami avec tout le monde, ne met pas ses opposants en prison, par exemple? Est-ce que Ben Ali, le président tunisien, ne met pas ses opposants en prison? Alors, Saddam Hussein fait partie des dictateurs un peu rudes, mais...
Un peu raide à la toile, comme dirait Brignot. Mais est-ce que les gens dans la rue, ou les gens à qui vous parlez, est-ce qu'ils vous donnent l'impression de tristesse qu'on voyait quand on allait dans les pays de l'Est avant la chute du
oui, de peur.
C'est pas le même
de
climat.
De peur, d'accablement.
La peur. Ah, en Orient, la peur ne s'exprime pas comme dans les pays de l'Est. Attention, c'était des Slaves. Et le Slave ne donne pas... D'abord, les gens de cette rive sud et est de la Méditerranée ont l'habitude de ce genre de traitement un peu dur, mais ont l'habitude surtout, on n'exprime pas sa tristesse et on n'exprime pas de paroles d'opposition. Je remarque chez les chrétiens d'Orient, dès que je commence à parler librement, je me dis tais-toi, on ne parle jamais de ça. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont tabous, et il est vrai que là-bas, on évite de parler de ça. Et quand vous parlez à quelqu'un, vous vous demandez toujours lequel des deux risque de trahir le premier, c'est-à-dire peut-être que les gens se méfient aussi d'exprimer des opinions. Je me rappelle une chose drôle, parce que j'avais été au référendum en 95, et je vois l'évêque d'Alcoche, évidemment, il y avait un petit papier, il fallait mettre une croix à gauche ou à droite. À droite, c'était pour Saddam Hussein, à gauche, c'était non. Référendum. Alors l'évêque d'Alcoche devant les caméras de télévision et devant mon appareil de photo, je l'ai la photo, vote pour Saddam Hussein. Bon, puis après, nous quittons l'Irak en taxi, c'est les taxis collectifs qui vont vers, là c'était vers Damas ou Amman. Et une fois sorti d'Irak, le contrôle à la frontière est toujours très dur et très pénible, à l'entrée comme à la sortie. Le chauffeur de taxi me dit, ben maintenant, je vais vous le dire, maintenant qu'on est sorti d'Irak, j'aime pas Saddam Hussein. Ah, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant? Non, je peux pas le dire en Irak. Mais je dis, en nous le disant maintenant, nous savons que vous ne l'aimez pas, et quand même, nous nous en souviendrons. Il dit, oui, c'est vrai, mais quand même, en Jordanie, j'ose le dire, et pas en Irak. Et alors on lui dit, mais alors, au référendum, vous avez voté non? Il me dit, pas du tout. Quand il y a un référendum, rappelez-vous Staline ou tant d'autres gens, là vous pouvez comparer Staline à Saddam, quand il y a un référendum, on vote oui. Parce que de voter non ne servirait à rien. Donc on vote oui. Et ça, il y a un côté réaliste chez les Orientaux, mais qui sera valable dans d'autres registres que la politique.
Et vous, mon père, quand vous étiez là-bas, vous avez senti...
Moi, j'ai eu une aventure parce que j'ai voulu aller à 15 km au pourtour de Bagdad pour voir une église chaldéenne, qui est d'ailleurs dans un style très babylonien, donc avec des créneaux...
C'est à Dora.
Je ne sais pas, mais il y a plusieurs églises. Donc je voulais aller voir celle-là parce que c'est exceptionnel. Il y avait une grotte de Lourdes à l'intérieur.
C'est Dora.
Et il y avait donc 15 km à faire, et moi, je suis parti à pied. Et je suis parti sur un itinéraire. C'est bizarre, il n'y a pas un chat sur les trottoirs, et il y avait effectivement des militaires de temps en temps, et au bout de...
Vous étiez dans votre...
Alors, j'étais en soutane noire, et qui est très respectée d'ailleurs, à Bagdad et partout en Irak. Si vous êtes en soutane, en habit, les prêtres, d'ailleurs tous les jeunes prêtres chaldéens que j'ai rencontrés, qui sont très nombreux, vraiment sont très respectés. Et je suis passé, et puis, j'ai fait 3 kilomètres, il n'y avait personne. Je passais devant les palais de Saddam Hussein, etc. Je ne le savais pas. Je vais jusqu'à l'extrémité, je prends un taxi, je me fais voler tout ce que j'avais, parce que j'avais un billet, on m'a pas rendu la monnaie.
Ils vous respectent, mais ils vous volent quand même.
Je rentre le soir à l'annonciature, je vois Monseigneur Rupp, et les sœurs chaldéennes qui parlent parfaitement français me disent, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je dis, voilà, je suis passé par tel endroit, c'est pas possible. Ben si, mais il faut jamais passer par là. Les gens qui passent par là sont enlevés, on ne les voit plus. Alors, elles tremblaient, elles sont devenues, c'était un petit peu bronzées, mais elles sont devenues presque blanches, hein, et elles étaient terrifiées. Et j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes à les rassurer, à les toucher, à dire, mais je suis là, etc. Mais elles étaient terrifiées.
Ah oui, quand même.
Parce qu'il y avait des enlèvements.
Des enlèvements par qui?
Alors, il y a plusieurs polices qui se contrôlent, hein. Mutuellement, il y en a 6 ou 7. Moi, à côté de l'annonciature, il y avait quand même une sorte de maison que j'appellerais une maison de barbouze. Moi, je les voyais sortir le soir parce que je passais de temps en temps sur le balcon. Les gars avaient des pistolets, ils sortaient. Moi, j'ai vu quand même 2 caméramans allemands. J'étais à plat ventre sur le balcon de l'annonciature. Je peux vous dire qu'ils avaient sorti des caméras. Il y a 2 jeeps des gaz 59 qui sont arrivés. Ils ont sauté sur les caméramans et ils ont été emmenés, mais ils ont pris des coups. Hein. Moi, ils ont été tapés. Les caméras sont tombées par terre. Etc. Bon, c'était quand même en 76, peut-être, en 75, 76.
C'est pas Ahmad Hassan al-Bakr, le beau-père.
Ah oui, je peux vous dire que c'était sérieux et que j'ai quand même eu des témoignages de gens qui avaient disparu, de gens qui ont été torturés, et j'ai entendu dire là-bas qu'il réglait certains de ses opposants d'une balle dans la tête, lui-même.
Donc, on peut dire
alors,
que...
Alors, on raconte ça, quand
Saddam Hussein n'est pas un ami des droits
c'est
de l'homme.
Pas... Enfin,
qu'est-ce que c'est, les droits de l'homme?
C'est une conversation qui nous amène.
Alors, la démocratie, c'est quoi? Ah, non, vous n'avez pas lancé un sujet.
Monsieur Chabrier, je suis désolé de vous couper, mais il y a un principe autour de cette table, c'est que... Je vais apporter un nourrin, d'ailleurs. Hein. Toute personne qui prononcera le mot démocratie sera obligée de mettre une pièce dans le nourrin.
C'est une démocratie totalitaire, ça marche pas.
C'est un pléonasme. Alors là, vous serez puni pour avoir parlé pour ne rien dire, vous comprenez. Voilà. Je ne sais pas si on a fait beaucoup avancer la connaissance d'Irak, mais j'ai l'impression qu'on a, tracé un portrait, comme ça, un croquis. Et maintenant, on va répondre aux questions des auditeurs.
Il y a d'abord quelques commentaires. Les premiers qui ont gazé les Kurdes en 1919, ce sont les Anglais. Cela a été dit sur Radio Courtoisie, dans une émission, je pense, par Dominique Vénère. Votre exposé est passionnant. En octobre, sur Radio Courtoisie, dans une émission du commandant Guillaume, M. de Villemarais a donné le téléphone de l'Américain qui, en 1987, était à Bagdad et a constaté et confirmé que les armes chimiques ont été données aux Irakiens par celui qui est aujourd'hui ministre de la Défense américaine, Rumsfeld. Les Kurdes gazés par le gaz bleu l'ont été par les Iraniens.
Mais il y a d'ailleurs une chose qu'on a dite quand les inspecteurs ont été invités à constater, à faire vérifier la présence ou l'absence d'armes massives ou d'armes biologiques. On a dit, mais la seule preuve, elle est dans la comptabilité des entreprises américaines qui ont facturé les armes qu'ils ont vendues aux Irakiens. Donc ce n'est pas la peine d'envoyer du monde en Irak. Je note au passage que... Il y a une offensive médiatique qui est lancée contre les inspecteurs. On a commencé par nous expliquer... Alors, aujourd'hui, vous savez qu'on n'a absolument pas le droit de dire du mal des homosexuels. C'est de l'homophobie. C'est puni par la loi. Hein, c'est interdit. Bon. Eh bien, ça n'a pas empêché la presse, qui est par ailleurs grande défendresse ou grande avocate de la liberté des mœurs, quelle qu'elle soit, de dénoncer un des inspecteurs comme... l'animateur ou le président d'une association de cuir à San Francisco. Le cuir, c'est des gens qui s'habillent en cuir pour faire des galipettes. Bon, chacun prend son plaisir là où il le trouve. En tout cas, ce type, sous prétexte qu'il passe ses vacances à se déguiser en motard pour rencontrer ses petits camarades, a été dénoncé, alors que je vois pas en quoi ça l'empêche de faire son boulot, de consiste à inspecter. Et ce matin, j'ai vu que Monsieur Blix est accusé par les Américains d'avoir été des inspecteurs qui, désignés pour vérifier les effets de Tchernobyl, avaient, relativisé les effets de la catastrophe de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est à combien? Il y a 20 ans. Ils ont mis 20 ans à s'apercevoir que M. Blix ne faisait pas bien son boulot. Mais alors pourquoi c'est lui qu'ils ont envoyé en Irak?
L'explication, on l'a entendu sur cette antenne il y a un mois. Souvenez-vous, Serge, vous avez interviewé par téléphone Jeannie Le Pen et elle vous a raconté son entrevue avec M. Blix et comment elle avait réussi en un quart d'heure à l'attendrir sur le cas des enfants irakiens. Je n'ai rien dit ce jour-là, mais je me suis dit que la carrière de ce monsieur était bien compromise. Et voilà.
Continuons. Concernant l'anthrax vendu par les États-Unis à Saddam, le député Julia, UMP, l'a précisé à son retour d'Irak sur cette antenne. Il a ajouté qu'il avait un document le prouvant. Il y a un autre pays qui exerce une dictature sur un peuple torturé, c'est la Chine, qui martyrise donc le peuple tibétain. Ah, Il faudrait quand même en parler.
Il y a aussi des vents de sable dans la plaine chinoise.
Alors, quelques questions. Pensez-vous que Saddam Hussein est ressenti par le peuple irakien comme le disciple de Staline?
Non, je vois pas. Le peuple irakien, ils m'ont jamais parlé de Staline. Ils aimaient beaucoup, il est vrai, le chef de l'État irakien, Abdelkarim Qassem. Ça, toujours, on m'en dit du bien. On m'en dit toujours, il est mort avec 25 fils dans la poche. Donc, il s'était pas enrichi au pouvoir. Mais on le dit aussi de Khomeini. Khomeini est mort sans argent.
Question pratique, comment se déplacent les Irakiens dans leur pays? Quel est le moyen de transport le plus utilisé?
Moi, je prends le bus pour aller de Bagdad à Mossoul et ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte environ $1.
Mais le minibus, taxi collectif,
suivant les zones, etc.
Pouvez-vous nous dire quel est le pourcentage de jeunes adultes par rapport à la population totale?
Ah, je suis pas démographe, c'est pas ce qu'il faut dire.
Non, mais l'impression de la rue, c'est quand même une foule jeune, des foules jeunes ou...
Ah, pas comme dans certains pays, parce que les Irakiens, à l'inverse des Kurdes qui sont polygames et qui font énormément d'enfants, les familles irakiennes ne sont pas très nombreuses. Et plus ils sont élevés dans la hiérarchie, on va dire, socio-intellectuelle, moins ils ont d'enfants.
Saddam monte-t-il à cheval et joue-t-il au polo?
Ah, Saddam, deux choses. Tous les soirs, dit-on, il traverse le Tigre à la nage. L'ennui,
enfin, c'est... Vous nous avez dit au début que c'était un ruisseau. Hein?
Non, mais il traverse le Tigre dans Bagdad. C'est un ruisseau à peu près à la frontière turque. Mais Saddam a deux qualités indiscutables. Il y en a d'autres sans doute. Il est bon nageur et toutes les nuits, il traverse le Tigre. Et la deuxième chose, il a appris à jouer du luth. Et ne joue pas mal. Alors on vous parle toujours de ces bourreaux, de ces affreux. Saddam Hussein joue du luth et pas mal.
Hitler jouait remarquablement de l'harmonica. Mais c'est le faisait...
Hitler. Ah bon. Ah. Giscard d'Estaing jouait de l'accordéon.
Oui, mais mal. Il faut dire que c'était pas un dictateur.
Les chiffres arabes sont-ils...
Et Néron chantait. En voyant brûler Rome, ne faut quand même pas oublier ça.
Oui, mais je n'ai pas voulu parler de Néron, oui.
Mais bon, légende, vous me cassez toutes mes images. Arrêtez de dire légende tout le temps.
Les chiffres arabes sont-ils vraiment dus à ceux-ci?
Mais ça, c'est hors débat, je crois. Enfin, vous pouvez répondre.
On dit en France les chiffres arabes qui sont un peu arabes, mais je crois que les chiffres arabes sont un peu plus de l'Est, etc. Je ne sais pas.
De toute façon, je vais vous dire, le gars qui a inventé les chiffres, il aurait mieux fait de se casser la jambe, une fois pour toutes.
Pourriez-vous nous dire si les chrétiens chaldéens sont aussi bons peintres que ceux du XVIIIe siècle en Europe?
Pourquoi les chrétiens chaldéens seraient-ils aussi bons peintres que ceux du XVIIIe? Mais qui, y a pas une confusion entre les primitifs flamands et les chaldéens, non?
Ah ben vous nous avez dit tout à l'heure que les chrétiens avaient une plaine qui n'aurait pas...
Non, les Irakiens, il y a énormément de peintres et de sculpteurs en Irak. L'espèce de comportement psychologique irakien est très propice à la créativité artistique. Oui, mais pas de rapport avec Rubens, il n'y a pas de descente de croix à ma connaissance.
Dernier commentaire. Alors, l'image de la Vierge n'est pas apparue sur le tableau de Juan Diego, mais sur son manteau. Le tilmatli, une pièce de tissu rectangulaire.
Oui, j'ai dit tablier au
lieu de manteau. En fibre d'agave et non en écorce, dont on nouait deux angles autour du cou et dont on laissait pendre l'autre extrémité.
Exact, indiscutable. J'ai lapsé en disant tablier parce qu'on avait trop parlé de, choses qui se passent.
Je peux vous dire, vous entendre ce soir me met du baume au cœur. Félicitations à Serge Le Bécatch. Merci pour l'émission dont le ton nous change d'avec ce qu'on entend toute la journée. Voilà.
Sur les autres radios,
sur RTL et sur Europe.
Bien sûr, sur les radios.
Non, mais il faut le préciser quand même.
Non, mais c'est dans l'esprit.
Merci beaucoup, Jean-Claude Chabrier. Merci d'avoir pris la peine de vous déranger pour participer à cette classe dissipée.
Puis-je rajouter une chose? Les vierges irakiennes, celles qu'on peint sur les églises, vous savez que les chrétiens d'Orient n'aiment pas le relief. Le relief, c'est occidental. Dans les églises orientales, y compris les orthodoxes, slaves et grecs, tout est plat. Les vierges irakiennes sont joufflues. Elles ont 14 à 15 ans d'aspect, c'est une peinture, et elles ont des crises qui sont mignons, mignons, mignons. C'est pas du tout la Vierge italienne un petit peu sérieuse, non. C'est une enfant, la Vierge irakienne. Et peut-être que c'était une
comme dans l'histoire, non?
Oui,
oh. Et on nous donne...
La Sainte Vierge avait 14-15 ans, très probablement. Je crois que toutes les recherches vont dans ce
sens. Un important dommage collatéral. Dans ma famille, l'affaire d'Irak est devenue une vraie affaire Dreyfus.
Oui, mais c'est dans le cas de toute la famille. Je suis dans la famille nationaliste aussi. Cela dit, ça n'empêche pas que j'aime profondément mon ami Sanders. Je l'aime beaucoup, on est très amis, mais on n'est pas du tout d'accord là-dessus, voilà, c'est tout, mais on ne va pas s'entretuer pour autant.
Et on vous recommande de réinviter votre invité de ce soir.
Eh bien, avec plaisir. Nous allons écouter la minute du marquis maintenant, peut-être. Est-ce que nous avons l'introduction de la musiquette introductive de la minute du marquis?
L'introduction du marquis, ça va faire jaser les sangs.
Le divin marquis.
Bon, bah alors.
Ah, Marquis, ce soir, la minute du Marquis, c'est un petit côté quand même carnet noir. Vous allez nous parler de nos chers disparus?
Oui, alors, je voulais vous dire que j'étais rentré de Turquie parce que j'étais parti rencontrer des autorités religieuses parce que, en tant que chancelier de l'église gallicane, je suis mieux reçu chez les musulmans que par les catholiques. Alors bon.
Qui est catholique qui vous a mal reçu? C'est Lustiger?
Oui, enfin, puis d'autres. Là, en Turquie,
j'ai... Pourquoi vous en voulez aux catholiques quand vous êtes mal reçu par Lustiger? C'est complètement...
Oui, donc voilà, c'est une erreur. Vous avez
raison. Alors la Turquie, ça vous plaît? Vous les voulez dans l'Europe?
Moi, je pense qu'ils peuvent pas rentrer dans l'Europe parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai vu aucun Africain coloré. Plus personne ne crache par terre. Il n'y a pas de taxe sur les monuments. Donc, par conséquent, ils ne peuvent pas rentrer dans l'Europe. Il leur manque la culture indispensable. Bien, oui, alors, on va parler de nos chers disparus. Il y a une espèce de mélange. Je voulais dire que nous sommes retrouvés à Saint-Eugène pour notre ami Lédécarque, Arnaud Lédécarque du Figaro. Et je veux dire que ça avait beaucoup de tenue. J'ai été très surpris que personne ne se pousse du coude pour être devant les photographes. Ils étaient tous autour du père Nourricier, président de l'Académie Goncourt. Mais tout ça avec beaucoup de calme et beaucoup de gentillesse et beaucoup de recueillement. Voilà.
Toute la famille était là. En plus.
Toute la famille était là. Oui, moi j'ai noté. Il y avait Jean Raspail, il y avait Jean Descartes.
Le professeur Lugan.
Voilà. Oui, c'est vrai. Le professeur Lugan qui a chanté. Ça aurait pu s'abstenir. Enfin bon. Il y avait aussi Michel Lonsal. Lui bientôt va finir dans un couvent.
Il est formidable, Lonsal.
Oui.
Bon. Ah, moi j'aime bien.
Oui. À mon avis, on lui a coupé le rein. Dans les autres chers disparus, il y a Toscan du Plantier. Alors là, je croyais qu'on en était débarrassé bonne fois pour toutes après les obsèques à la Madeleine, parce que les flots de larmes, toujours, bien entendu, avec Monseigneur Di Falco, qui maintenant est spécialisé dans la nécrophilie.
Il avait commencé depuis longtemps, hein, puisque c'était quand même lui qui avait extrémisé, non pas extrémisé, mais accompagné le Luron.
Oui, mais enfin là, c'était à titre familial. Et, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Oui, bon. Alors, donc, ça tombe sous le coup aussi, oui, d'accord. Oui. Bien, donc, Toscan du Plantier, tout le monde a pleuré à la Madeleine, des flots et des flots et des flots. On s'est dit, à la soirée des Césars, ça va être tari quand même. C'est mal connaître le monde des comédiens et des comédiennes qui, alors là, ont des réserves lacrymales en pagaille. Alors, le soir des Oscars, c'est épouvantable parce que toutes celles qui étaient passées pleuraient, toutes celles qui rêvaient d'y penser, qui n'y penseront pas, pleuraient, toutes celles qui ont eu des enfants pleuraient. Et j'ai découvert que sa dernière épouse, attendez, j'ai noté ça quelque part, s'appelait Mélina Nicolique.
La Nicoli, vous voyez, c'est amusant. Enfin bref, il y a beaucoup de dames qui pleuraient pour Toscan du Plantier, et alors évidemment, je pense que c'est un peu le gland des veuves. Nous nous sommes retrouvés quelques jours après à la grande synagogue de la rue de la Victoire pour honorer la baronne Élie de Rothschild. Alors là, tout le monde...
Je vous arrête. Oui. Vous avez remarqué que Max Pécasse est mort et que 15 jours après, Toscan du Plantier est mort de chagrin.
Oui, absolument. Et on peut dire du mal de Toscan du Plantoir, comme disaient ces dames. J'ai un ami moi, qui est un grand metteur en scène, connu, gentil, et généralement gentil, m'a dit les pires sottises sur Toscan du Plantier.
Il fait la jalousie, ça.
Non, je pense... Ben non, il était pas producteur. Non, enfin, Toscan du Plantier, avant de mourir, ça a été le fossoyeur de pas mal de maisons de cinéma. Bien, on s'est retrouvé quelques jours après à la grande synagogue de la rue de la Victoire pour honorer la baronne de Rothschild. Alors, ce qu'a dit le grand rabbin de France, je l'aurais écrit dans n'importe quel journal, j'aurais eu des soucis. Hein, quant à la sélection, la pureté de la race, les mariages, en fait, etc. Enfin, bon, on va pas encore dire des sottises. Tout le monde avait mis sa petite calotte bien propre. Il y en a pas une qui s'était perdue, de calotte. Et alors, j'ai remarqué une chose, c'est qu'à la sortie de tous ces machins-là, maintenant, tout le monde appelle son chauffeur avec le portable, parce qu'évidemment, il n'y a que vraiment les très grosses huiles, genre comment il s'appelle, l'ancien ministre ou Sarkozy, genre comme ça, qui peuvent laisser la bagnole, sinon les autres, c'est ailleurs. Et alors, à la sortie de la synagogue, on appelle comme ça vite le chauffeur, avec beaucoup d'énervement, bien sûr, et je trouvais que ça ressemblait, c'est la version moderne de l'appel du chauffard, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Avant tout ça, j'ai fait un saut à Berne, hein, pas chez Berne, à Berne, en Suisse, où il y avait une... Moi, je vois pas l'heure,
non,
m'arrêtez.
Non, allez votre chemin.
Il y avait une soirée pour l'Ordre de Malte, une de plus. Et là, j'ai vu une fois de plus un monsieur que je vois partout depuis que je suis petit garçon, qui s'appelait dans le temps Thomas Foran, puis un jour, il est devenu le Baron Foran, puis un jour, il est devenu le Baron Foran, virgule, duc de Saint-Bar, puis maintenant, c'est le duc de Saint-Bar. Alors, je me suis un peu intéressé.
C'est un duc américain, ça, non?
Voilà, c'est un duc américain. Alors, il aurait...
C'est le seul, non?
C'est le seul. Il a été l'aide de camp d'Alexandre III d'Yougoslavie, et il a, me dit-on, des papiers américains, donc c'est le seul duc américain. En Amérique, il y a deux familles royales. Il y a les Bush et puis les Kennedy, mais ils n'ont pas des ducs comme nous. Et en cherchant bien, c'est pas vrai, j'ai trouvé deux autres ducs américains, Donald Duke et Duke Ellington. Et alors, le bobard, c'est-à-dire Foran, faut le bobard, continue à nager en eau trouble. Bon, il y a un truc là, je vais passer à Versailles, on en parlait tout à l'heure, il y a une nuit de Chine pour les enfants qui crèvent de faim, c'est-à-dire qu'on mange pour des fortunes. Et là, j'ai aperçu de loin une vieille amie, Madame Pinault, qui était toute en noir, superbe, c'est la dernière femme à porter une soutane. Et elle avait sur l'épaule une énorme serpillière, je dis c'est merveilleux, elle s'habille maintenant chez Gaultier, c'est quand même pas tout à fait son truc. Puis en m'approchant, j'ai touché la serpillière, c'était du chinchilla, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore. Ah oui, j'ai dit dedans, j'allais oublier dans les...
De quel Pinot vous parlez, là?
Pas celui des Charentes, l'autre.
Traduisez un peu pour
oui, non, mais les éditeurs. La Redoute, le Printemps, voilà, oui, oui.
Vous ne dites pas du mal de votre concierge, tout à fait.
Non, pas du tout. Non. Ah ben non. Non.
Vous tapez haut.
Oui, large. Et j'avais oublié de vous parler de l'enterrement de la Lagardère aussi. J'ai trouvé assez étonnant que la messe débute pratiquement en même temps que la guerre en Irak, alors qu'on sait que M. Lagardère, qui évidemment était le meilleur le jour de son enterrement, est quand même celui qui a vendu le plus d'armes à M. Saddam Hussein. Enfin, cela étant dit, c'était quand même, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans mon métier, un homme assez avenant et qui n'avait pas oublié qu'il était d'origine modeste et qui était extrêmement courtois avec les gens autour de lui qui travaillaient pour lui. Une anecdote très courte, j'étais en Turquie quand j'ai vu sur TV5 qu'il était en train de mourir, t'es pas sûr, et quand je suis rentré, j'entends à la radio, l'enterrement de M. Lagardère aura lieu jeudi. Et on n'en dit pas plus. Donc, j'appelle la société France Gallo, dont il était le président, parce qu'il avait une très belle écurie de course. Je me présente en ma qualité de président d'honneur du syndicat hippique national pour demander à quelle église et à quelle heure auraient lieu les obsèques de M. Lagardère. Et la téléphoniste me dit, ne quittez pas, je vous le passe. Grand moment d'émotion. Voilà. Alors, je vais pas tous les dire, mais il y a une liste impressionnante de gens qui étaient à son enterrement.
Ça irait plus vite de dire ceux qui n'y étaient pas, en fait.
Bah, écoutez, oui, il y avait tout, dans les anciens ministres, je pense que Raymond Barre devait être malade et Jospin, ça devait pas lui plaire, sinon tous les anciens ministres étaient là. Mais je voudrais une mention particulière. Il y a un monsieur qui est arrivé parfaitement à l'heure, parfaitement discrètement, mais qui a fait cesser le froufrou mondain au moment où il est arrivé, simplement en traversant l'allée, c'était monsieur Karl Lagerfeld. J'étais fasciné par l'allure du monsieur, là. Je veux dire qu'il m'a beaucoup épaté. C'était une très jolie messe au cours de laquelle monsieur Di Falco, évêque, a remercié Betty Lagardère de l'avoir prié de venir présider l'office en disant que c'était ainsi sa réhabilitation.
C'est curieux comme déclaration.
Ben oui, on se demande pourquoi.
Qui avait besoin d'être réhabilité si l'idiot qui a rien compris peut poser la question.
Mais parce qu'il a des casseroles à sa soutane.
C'est pas la gardeur en tout cas.
Réhabilitation.
Dites-moi, il y a, oui, bah, c'est lui qui l'a dit. Un auditeur fait une réflexion que vous auriez pu songer à faire. Oui. Pardonnez-moi de le dire, oui. Quand on a parlé tout à l'heure des chefs d'État musiciens, il a dit, vous oubliez parmi les chefs d'État musiciens, l'ancien président Bill Clinton qui jouait du saxophone et de l'harmonica.
Ah oui, ça m'aurait échappé. Mais j'en étais resté à l'humidificateur de cigares.
Je croyais que c'était Hitler, mais non, c'était...
Non, c'était Clinton.
Alors, donc...
Alors voilà, je vous finis, oui, ça part dans tous les sens. Je vais vous dire un mot de M. Patrick Balkany, qui...
Vous avez deux minutes.
J'ai deux minutes. Qui est marié avec Isabelle Smadja, enfin je dis le nom comme ça, c'est une histoire d'eux. Et qu'on a vu il n'y a pas longtemps chez Mireille Dumas, tomber dans les bras de sa femme, on s'aime à nouveau après tout ce qui nous est arrivé. Alors moi, je voulais simplement rappeler que je l'ai bien connu, jeune homme, en 1975, il était apprenti acteur chez un monsieur qui s'appelait Yves Furet, qui était le célèbre inspecteur Vitos sur Radio Luxembourg. Et Yves Furet avait implanté en France les méthodes Stanislavski, et il avait comme élève M. Balkany, qui est plutôt un comédien qu'un homme politique, et il a eu un rôle une fois dans sa vie, il faisait un cousin du tsar, il est très beau dans son uniforme blanc, dans le film J'ai tué Rasputin d'après Le Prince Youssoupov, et qui avait été mis en scène par Robert Hossein. Voilà pour Balkany, et s'il me reste une minute, je voudrais rendre un hommage à M. Crépineau, directeur du théâtre de la Michaudière, qui a le courage d'afficher, je peux dire que c'est moi, Jérôme Brigadier, oui, allons-y, oui, oui, parce que pour faire croire qu'on est nombreux au Libre Journal, on a tous une dizaine de pseudonymes. Et alors comme ça, vis-à-vis des impôts, ça passe. Eh bien, Monsieur Crépineau a fait ce que font pas ses collègues. On a fait un papier qui était bien sur la pièce qui est chez lui en ce moment. Et au lieu de placarder un homme parfait, voilà, la Michaudière, au lieu de placarder que l'article qui est assez gentil, enfin en gros, et puis c'est tout comme le font les autres, alors que pour les autres journaux, ils mettent quand même le titre du journal. Et bien là, il a fait un montage avec une photocopie et apparaît en très gros, au-dessus de l'article, le Libre Journal. Chapeau, Monsieur Crépineau, bravo, vous êtes courageux.
Et tous à la Michaudière.
Et tous à la Michaudière, bien entendu.
On voilà. A commencé par un écran publicitaire, on finit par un écran publicitaire.
J'ai dit, vénérable maître, la Cassia m'est connue. Voilà.
Si on ne peut pas aller à la Michaudière, on envoie 110 euros oui. À SDB, 4 places France Liste, 75-010 Paris.
Et on peut lire la suite des aventures du Marquis sous le pseudonyme de Jérôme Brigadier. Voilà. Merci encore.
Excusez-moi, oui. Puisque vous êtes dans les adresses, est-ce que vous pouvez donner le numéro de téléphone et l'adresse de SOS Enfants d'Irak?
Alors, je ne le connais pas, là. Vous auriez dû me le...
Il faut le demander.
Oui, il faut le demander. Moi,
au Front National, non?
Oui, le mieux, c'est de téléphoner au Front National.
Moi, j'ai mieux. Je peux indiquer qu'Anne Brassier donne une conférence le 3 avril au restaurant Le Grenadier à 20h au-dessus de la gare d'Austerlitz. Je peux dire que je présenterai l'affaire Limonov, qui sera peut-être un livre, qui sera bientôt un livre, en tout cas. Donc, le 8 avril au restaurant Le Pélican 10, rue Croix des petits champs Paris 1er Palais Royal, ça doit dire quelque chose à quelqu'un, cette adresse, c'est bien ça, le Pélican 10, le Croix des petits champs, voilà, et je peux dire en dernier lieu qu'il me reste quelques exemplaires de mon chef-d'œuvre immortel, Le Cauchemar américain, qui est particulièrement d'actualité, particulièrement prophétique.
Raconté à mon cheval.
Le Cauchemar américain, raconté à mon cheval. Il suffit de m'envoyer à mon ordre 10 euros. Savez-vous à quelle adresse, Serge?
Je vous laisse le
au
dire.
Au bon soin de SDB, 4 places en
la prudence.
Et on nous a demandé tout à l'heure sur le regroupement familial, le décret au journal officiel du 2 mai 76. C'est le numéro 76-383 du 29 avril 1976.
Merci Victoria, merci Monsieur Chabrier, merci Père Argouache, merci Patrick Goffman, merci Marquis. Cher guest et Olmeta, pour cette minute dont on ne se lasse plus. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.